Amis de la dissidence, bonsoir. Ce soir, une émission bien complète de 3 heures, bien pleine, voilà, c'est ça que je voulais dire. Avec, pour invité, Maître Méry, qui est avocat, auteur de « Justice, franc-maçonnerie et corruption », vous voyez qu'on commence quand même assez fort, et d'un autre livre qui s'appelle « Les nouveaux parrains ». Bernard Méry est un avocat qui a décidé de se faire des amis dans la magistrature. Il réussit assez bien, d'ailleurs. Ensuite, on recevra Vincent Renoir, qui veut se faire des amis dans un autre genre d'activité, qui est historien, et qui viendra nous parler d'un livre intitulé « Justice pour Oradour ». Ensuite, nous recevrons le docteur Willem. Le docteur Willem, il est médecin anthropologue.
Exact.
C'est-à-dire un médecin explorateur. Il était dans le monde entier pour trouver des huiles essentielles. Et il consacre un livre à ce sujet fort intéressant, les huiles essentielles médecine d'avenir. Vous dit que vous étiez là à faire ça. Comment allez-vous?
Je commence à faire partie des meubles.
Les
maintenant.
Bébés, ça va?
Les bébés, ça va bien. Oui.
Madame est contente?
Madame est très contente.
Vous avez gagné beaucoup d'argent dimanche?
Je suppose que oui, puisque le numéro 4 est en projet.
Ah bon, c'est comme ça que vous célébrez les grosses ventes. Ben, c'est bien ça. Bon, alors donc, je disais, il y avait pratiquement autant de dangers sur la route pour aller de Tolède à Cadix que pour aller de Cadix au Nouveau Monde. Et donc, on verra. J'aime bien cette façon de raconter l'histoire.
C'est vrai que les aventures de l'histoire étaient vraiment une excellente...
C'est bien, hein.
Une excellente revue. J'ai bien aimé le numéro 8 d'Aventure de l'Histoire. Il y avait un article excellent sur l'attitude du Parti communiste pendant la guerre. Vraiment un très très bon article.
Vous êtes légèrement monomaniaque, vous, non? Peut-être un peu, non? Pas monomaniaque? Vous n'êtes pas un peu anticommuniste?
Un petit peu, alors.
Alors, un petit peu d'actualité. Je sens, vous savez que je suis un voyant, mais j'ai du pif. Je sens. Et je sens qu'il y a un gros lézard qui est en train de se préparer contre la droite nationale, parce que on voit s'armer les je sais pas si on arme les mortiers, mais enfin on voit les mortiers commencer à se mettre en batterie. Mmh. D'abord, il y a eu l'histoire, ça n'a rien à voir pour nous, mais pour eux, ça a quelque chose à voir. Il y a eu la revendication des Verts de faire évacuer Saint-Nicolas du Chardonnay. Au motif qu'à Saint-Nicolas du Chardonnay, il y avait des livres intégristes. Ce qui est quand même incroyable, il faut bien reconnaître quand même. C'est assez scandaleux que dans une église traditionnelle, il y ait des livres traditionnels.
Il paraîtrait même qu'il y aurait des crucifix à Saint-Nicolas du Chardonnay.
Non, ne connais pas.
Sérieux, pareil, j'ai fait mon enquête souvent, et il y a des...
Ouais.
Hein, et on trouverait même des prêtres hein, dans l'église. Hein.
C'est leur soutane en plus.
En soutane, oui. Mais...
Ah, ouais, sans le... Donc ça, c'est un scandale, les Verts sont scandalisés. Je veux dire, ces gens, ils trouvent tout à fait normal que 500 000... Homo se balade les fesses à l'air dans des chars de la Gay Pride, mais il trouve scandaleux que des curés se promènent en soutane.
Alors pour vous dire à quel point les Verts ont quand même dépassé la mesure, c'est que même dans Myriam, je veux dire dans Marianne, ils s'en sont indignés.
Ah oui, ça faut dire. C'est pas des Verts, c'est des oxures.
Hein? C'est, ça doit être des Verts particulièrement daltoniens.
Alors, il n'a pas compris.
Ah non.
Il n'avait pas compris visiblement. Il n'y a que les médecins qui peuvent comprendre. N'est-ce pas, docteur? Voilà, docteur Villam, maître Méry, qui a du vocabulaire. Je vais demander à votre femme ce que c'est que les oxures, parce que si vous avez des enfants, à mon avis, elle doit le savoir. Ou il faudra qu'elle se renseigne. Bien. Alors, pour ne pas quitter le sujet, M. Labarrère a fait savoir qu'il ne voulait pas recevoir le Front National à Pau. Alors, c'est extraordinaire, parce que un accord avait été signé en octobre dernier et en avril, le responsable du palais de Pau, de Pau, a fait savoir qu'il ne louerait pas le palais au Front National parce que des travaux de réfection de la verrière doivent être entrepris pendant le mois d'août. Okay. Et alors, aujourd'hui, M. Labarrère explique au Monde, j'aurais pu m'en tenir à cette raison technique, mais j'en ajoute une autre politique aujourd'hui. Il n'est pas possible d'accueillir le Front National après ce qui s'est passé le 21 avril. Alors, c'est-à-dire que, si vous voulez, raisonnez bien, écoutez bien le raisonnement. Ces grands démocrates, qui ne voulaient pas recevoir un parti parfaitement légal, pour des raisons mensongères, depuis que ce parti parfaitement légal a fait la démonstration à l'occasion du premier tour des présidentielles, qu'il était véritablement représentatif d'une partie importante du peuple français, quand même, près de 20% de l'électorat, c'est-à-dire près de 6 millions de personnes. Depuis, on dit, on aurait dû leur dire qu'on ne voulait pas les recevoir au mois d'avril en raison de ce qui s'est passé le 21 avril. C'est-à-dire qu'on aurait dû refuser de les recevoir avant que ça arrive, parce que, après, une fois que c'est arrivé, on a eu la démonstration que non seulement c'était un parti légal, mais aussi que c'était un parti représentatif. Et c'est M. Labarrère qui nous dit ça aujourd'hui. M. Labarrère, qui est un grand démocrate, mais ça, ces électeurs ne l'ont pas compris. Parce
ils
l'ont viré.
Voilà, c'est, M. Labarrère est un socialiste bontain, tendance de la Noé.
Bah, pour le maire de Pau, c'est un peu normal. Hein. Enfin, là aussi, vous avez percuté, là, ou pas? Moi, je me méfie avec vous, parce que tellement je vois une espèce de vague dans votre beau regard. Alors, donc, vous voyez, ça commence. À Paris, les BBR ne pourront plus avoir lieu parce que M. Delanoë, qui ne manque pas de peau non plus, a décidé qu'il y aurait des travaux, ils font des travaux partout, il y aurait des travaux sur la pelouse de Reuilly, ce jour-là. Ils vont faire des plantations. M. Delanoë plante au mois de septembre sur la pelouse de Reuilly. Si le spectacle vous amuse, vous pouvez aller faire un tour là-bas.
C'est, voilà. C'est peut-être pas l'endroit pour planter, non?
Je sais pas, non, mais c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Hein.
Pourquoi? Peut-être, non, parce que il se trompe de bois, hein. c'est plutôt à Boulogne qu'on plante, c'est pas Vincennes. Hein.
Et c'est lui qui avait déjà refusé la kermesse de Saint-Nicolas du Chardonnay. Bon.
Alors, il faudrait qu'il change de nom à la kermesse de Saint-Nicolas. S'il appelait, je sais pas, moi, la Cato Pride, peut-être, sur un malentendu, ça pourrait passer, non?
Oui, peut essayer, mais je sais pas si ça plaira à nos abbés. Je suis pas certain. Donc, voilà. Alors, les BBR, on sait pas où ça aura lieu. Dans le même temps, Catherine Maigret est interrogée par la police dans le cadre d'une enquête sur la mairie de Vitrolles. Parce que figurez-vous qu'il semblerait, enfin, la police, ils ont vraiment que ça à foutre, les flics. Hein. Ils accusent, ils prétendent, ils enquêtent sur la possibilité que des lettres aient été envoyées depuis la mairie de Marignane, non pas de Marignane, qu'est-ce que je raconte, de Vitrolles, qui n'étaient pas proprement liées à la mairie de Vitrolles. Il semblerait qu'ils ont le soupçon que Bruno Maigret aurait envoyé des lettres à des maires depuis la mairie de Vitrolles.
Donc ça frôle le crime contre l'humanité.
Ah non, mais c'est un crime contre l'humanité, vous vous rendez compte, c'est tout à fait incroyable. C'est certainement pas Chirac qui se permettrait ça quand il était maire de Paris. Hein, il ne serait certainement pas permis une chose pareille.
On crie un rose sur le Maigret.
4 francs par jour pour manger, je crois que.
Oui, mais c'est pas pour envoyer des lettres au maire.
C'est pas pareil. Hein,
donc c'est pour manger. Il a de l'appétit, c'est on le sait déjà. Tête de veau et bière mexicaine.
Au fait, puisqu'on parle de lettres, qu'est devenu ce député UDF dont Thierry Paulin avait envoyé ses cartons d'invitation pour la dernière petite sauterie qu'il avait fait avant son interpellation sur son quota de distribution de lettres à l'Assemblée?
Nos auditeurs ne savent probablement même pas qui est Thierry Paulin.
Alors Thierry Paulin, je rappelle pour nos auditeurs qui l'auraient oublié,
c'est ce que vous allez dire. Hein.
C'est ce jeune disciple,
jeune blond.
Ce jeune blond, voilà, très adepte des séances d'UV,
oui.
Au look californien, mais vraiment californien du Sud, qui avait, selon les recommandations d'un bon docteur que je ne nommerai pas, pratiqué une sorte d'euthanasie.
Non, il l'avait pas, on ne sait pas, il n'a jamais été jugé. Il a été soupçonné d'avoir égorgé des vieilles dames.
Voilà.
Bon, mais soupçonné. Comme il est mort avant, il n'a jamais été condamné. Et je souligne ça parce qu'il y a deux journaux quand même qui avaient écrit qu'il était l'auteur des assassinats des vieilles dames. Et avant de mourir, il leur a fait un procès. Et il a quand même pris 20 briques de dommages et intérêts. Le gars était en prison pour les assassinats de ces vieilles dames. Mais comme il n'avait pas été condamné, la justice a décidé que les journaux l'avaient diffamé. Donc c'est pas la peine. Il doit bien avoir un héritier quelque part. Pas la peine de donner à cet héritier. Donc, Thierry Paulin est innocent. C'est comme de même que Goldman était l'homme qui n'avait pas tué les pharmaciennes du boulevard Richard Lenoir, Thierry Paulin est l'homme qui n'a pas tué les petites vieilles du
18e arrondissement.
18e arrondissement. Voilà. Et alors, pour revenir au Front National et à la droite nationale, si vous êtes adepte d'Internet, je vous recommande tout spécialement. Un provider, comme on dit, un fournisseur d'accès qui s'appelle AOL. African Online, non, American Online, pardon.
À ne pas confondre avec American Airlines, oui, qui font des avions très prisés au Moyen-Orient.
Et alors, donc, America Online, AOL, exerce une censure absolument féroce sur tous les messages qui passent par eux. Ils ont des gars qui travaillent, dont le seul travail est de lire les messages qui passent sur les forums et de censurer sauvagement les messages qui sont qui ne conviennent, qui sont pas politiquement corrects. Et notamment quand ces messages émanent de gens qui ont des contrats particulièrement intéressants. Parce qu'au début, pour se lancer, AOL avait fait des contrats tout à fait intéressants. Et maintenant, ça devient moins intéressant puisqu'ils ont eu la clientèle. Il faut et donc, ils sont particulièrement attentifs aux messages qu'envoient ces gens-là. Et quand ces gens-là envoient des messages qui ne sont pas politiquement corrects, on les radie carrément d'AOL. Vous voyez ? C'est-à-dire, par exemple, vous prenez une carte orange pour l'année dans le métro à bas prix, et vous êtes pris à lire un mauvais journal dans le métro, et on vous prend votre carte orange, on vous la déchire. C'est un peu le système, vous voyez ? C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est et alors là, voilà le genre de message qu'il est interdit de diffuser sur AOL. C'était un utilisateur d'AOL qui avait trouvé amusant de faire une espèce de fiction. Et alors il avait dit, voilà, la République démocratique française vous propose son programme de télévision. TF1 vers 2h30, le droit de savoir. J'ai été torturé et violé par Le Pen en Algérie. Documentaire de 52 minutes. Attention, ce programme comporte des scènes reconstituées qui peuvent choquer un jeune public. France 2, 23h10. Plus jamais ça. Émission littéraire présentée par Bernard-Henri Lévy. Thème ce soir. 9 intellectuels viennent crier leur haine du FN. France 3, 20h15. Reportage. Ils sont partout. Comment le FN a réussi à infiltrer le monde syndical et ouvrier. Canal Plus 19h. Émission quotidienne de Carl Zéro, harcèlement démocratique. Le célèbre animateur va, en direct, comme tous les jours, dénoncer un adhérent du FN à ses voisins. À minuit, Le Pen ne passera pas par moi. Les stars du X appellent à la mobilisation citoyenne. Arte, 20h50. Le Pen et les camps de la mort. Gérard Villers nous révèle le vrai programme du FN à travers le protège psychologique de Le Pen. M6, concert en direct live de la place de la République. Chantons contre l'exclusion. Les artistes se mobilisent contre le racisme. Guy Bedos interprétera son nouveau sketch. Alors là, il y a un mot que je ne peux pas lire. Le Pen, qui fait quelque chose à Le Pen, qui est en présence du maire de Paris, donc vous devinerez sans peine de quoi il s'agit.
Le maire de Pau pourrait être aussi.
Il pourrait être là aussi. Nous n'avons pas enregistré d'avertissement. Alors, tout ça, naturellement, c'était une plaisanterie. Il a envoyé ça sur un forum. Un forum, c'est une espèce de dazibao électronique où tous les gens qui ont envie de dire quelque chose le disent, puis les autres le lisent, répondent, etc., etc. Et alors, du coup, AOL lui fait savoir que nous avons reçu une copie du message posté par le pseudonyme Naudin Fernand dans nos forums de la chaîne Ado Cinéma, tout ce qu'on déteste à la télé. Nous souhaitons rappeler au pseudonyme Naudin Fernand que nos conditions générales d'utilisation, ça c'est des majuscules partout, interdisent de harceler, menacer, embarrasser, causer une gêne, contraindre un abonné à porter une attention non voulue à un autre abonné, un utilisateur d'AOL ou une autre personne ou entité, ainsi que toute diffusion de contenu publicitaire. Donc le gars répond, Naudin Fernand répond, je vous demande de me répondre précisément en quoi ce message peut harceler, menacer, embarrasser, causer une gêne, contraindre un abonné à porter une attention, etc., etc. Alors évidemment pas, parce que c'est une simple blague, il imagine le programme de télévision de la République démocratique
française. Surtout qu'en plus, le trait est à peine grossi.
À peine grossi, oui, c'est ça. C'est pratiquement le programme. Il a simplement rassemblé sur une seule soirée le programme d'une semaine, à peu près.
Voilà.
Eh bien, ça, on ne peut pas le faire sur AOL. Alors, je signale aux amateurs d'Internet que il y a bien d'autres providers. Il ne faut pas aller embêter AOL sur... après tout, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Donc, si vous avez envie de parler librement, aller le faire ailleurs que chez eux, c'est ça que je veux dire. Michel Debray avait été accusé, ça c'est très rigolo comme histoire, il avait été accusé d'avoir favorisé le vol des enfants à La Réunion. Vous savez que c'est un nouveau truc ça maintenant. On nous explique qu'en Australie, les Anglais, ils trouvaient probablement qu'il n'y en avait pas assez d'enfants, donc ils volaient des enfants aborigènes et ils les amenaient en Angleterre.
Il faisait de l'import-export parce qu'il prenait aussi des enfants des orphelins anglais pour les envoyer en Australie.
Il faisait le contraire. C'était de l'import-export.
C'est vraiment des commerçants, les
Britanniques. C'est un manque de goût, en plus. Enfin, en tout cas, Debray a été accusé, en gros, de la même chose à propos de vol d'enfants de La Réunion. Et alors, Pierre Messmer, qui est le président de l'association des Amis de Michel... Car figurez-vous qu'il existe une association des amis de Michel Deloré, qui se tient probablement ses congrès dans une cabine téléphonique, mais, alors, présidée par Pierre Messmer, qui a envoyé la lettre suivante au Monde. Il dit, bon, tout ça, naturellement, toutes ces accusations sont fausses. Et il dit une chose qui est, écoutez bien, c'est formidable, alors c'est très intéressant. Bon. Et alors, Debré, l'organisation d'une politique volontariste de migration, initiée par Michel Debré, est destinée à permettre à nos compatriotes des Antilles, de Guyane et de la Réunion de venir en métropole pour y occuper un emploi et s'y établir avec de meilleures chances d'épanouissement familial. Moi, je voudrais qu'on m'explique, ce feu Debré est mort et le diable est son âme, mais peut-être que son fils, qui occupe en ce moment des fonctions à la tête de la République, enfin pas vraiment à la tête, mais...
C'est le président de la première... C'est le président de l'Assemblée nationale, voilà. Donc dans l'ordre protocolaire, sans mauvais jeu de mots, le troisième personnage de l'État.
Ouais, c'est assez rigolo d'ailleurs de penser qu'un Debré arrive à être le troisième personnage de l'État.
Était numéro 2 déjà.
Bon, chacun fait comme il veut. Hein. Mais je voudrais qu'il m'explique en quoi, tout simplement, le fait de prendre des Réunionnais, des Guyanais et des Antillais et de les amener à Paris, en métropole, peut leur permettre de s'y établir avec de meilleures chances d'épanouissement familial. Il faut vraiment jamais avoir foutu les pieds dans les dom-dom pour croire que des gens de là-bas peuvent trouver un meilleur épanouissement familial en métropole que chez eux.
Ah ben, en métropole, ils peuvent se sentir plus dans leur élément.
Ah oui. Non, mais pas à l'époque de Debré. Mais je trouve que raisonnement, c'est raisonné comme un tambour, ce qui pour... un ancien sous-officier de Légion, finalement, assez... Enfin, c'est plutôt flatteur, c'est comme un tambour pour Messmer. Mais de nous expliquer que Debré a fait venir les gens des dom-tom pour qu'ils puissent s'épanouir sur le plan familial en France, je trouve qu'ils pensent curieusement, ces gens-là, je sais pas.
Ils seraient la métropole sans les Antillais.
Ah non, mais j'ai rien contre la présence des Antillais. C'est pas ça que je veux dire. Mais ils sont parfaitement chez eux, partout en France, puisqu'ils sont français. Mais le motif... leur permettre un meilleur épanouissement familial, c'est aberrant. C'est exactement comme si je disais on va envoyer des Auvergnats au pôle Nord pour qu'ils y trouvent un meilleur épanouissement familial. Enfin, c'est pas là qu'ils vont se... Qui trouve du boulot, qui trouve du travail, des salaires, hein, tout. Oui, d'accord. Qui viennent faire des études pour s'épanouir intellectuellement, puisqu'il n'y a pas d'université chez eux. D'accord. Mais l'épanouissement familial d'un Guyanais à Dunkerque, je vois pas bien.
D'ailleurs, Taubira avait dit qu'elle préférait être à Cayenne qu'à Paris.
Ben, elle aurait mieux fait de rester à Cayenne. À Lyon, le curé de l'église de Saint-Dizier demande sans papier de cesser leur occupation. Alors, c'est intéressant aussi, mais je voudrais qu'on m'explique pourquoi ces gens-là occupent toujours des églises.
C'est pas des... d'autres.
C'est des musulmans pour la plupart. Hein, pourquoi ils n'occupent pas des mosquées? Moi, si je voulais faire une occupation, j'irais occuper une église. Il ne viendrait pas à l'idée d'aller dans une mosquée. Eh bien, eux, pourquoi ils vont dans les églises? Je ne comprends pas.
Et c'est dans le sens propre du terme « occupation ». Vous ne dites pas, Serge, les Français occupent la Champagne-Ardenne. Peut dire les Français occupent la Rhénanie.
Bon. Alors, maintenant, je vais vous donner un conseil gastronomique. Ça, c'est tiré du Monde. Le centre éducatif renforcé, CER, de Grand, dans les Bouches-du-Rhône. Alors, le centre éducatif renforcé, c'est une structure qui accueille les mineurs très désocialisés. C'est ce que l'autre...
appelait des sauvageons.
Des sauvageons, voilà. Hein? Pour qui ce placement constitue un ultime recours avant incarcération. Donc là, en fait, c'est des bons petits loupards de banlieue. Hein? Ils sont accueillis au centre éducatif renforcé de Grand, dans les Bouches-du-Rhône. Et ce sont les mineurs de l'Essonne.
Oula, hein,
c'est quand même pas le département le plus cool de la région parisienne. Eh bien, alors, ces jeunes gens, pendant 3 mois, ces mineurs... Écoutez bien, parce que vous allez voir à quel degré de folie furieuse on est arrivé en France aujourd'hui. Pendant 3 mois, ces mineurs participent au fonctionnement d'un restaurant ouvert au public. Moi, je croyais que c'était un métier de faire de la restauration, du service de salle, etc. Non, 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 il suffit d'être un voyou et d'être envoyé dans un centre d'éducation renforcée. Et puis, à ce moment-là, on peut faire ça. Pendant 3 mois, ils font ça. Mais écoutez bien dans quelles conditions ils le font. Chaque éducateur suit 1 ou 2 jeunes et effectue les mêmes tâches que lui. C'est-à-dire qu'il y a un type qui, toute la journée, à un jeune, probablement attaché avec une laisse, ou je sais pas quoi, une ficelle, et le jeune fait la vaisselle, et l'éducateur fait la vaisselle, tout en disant à l'autre, tu fais la vaisselle pour ta réadaptation dans le... ou alors va servir à la table. Alors, pour servir, je sais pas, une cuisse de poulet, il doit être à 2 pour la transporter et tout. Alors, le Monde dit, le coût de la prise en charge est élevé, 380 € la journée en 2002. Alors, j'ai fait un petit calcul, 381 € la journée en 2002, ça fait 60 000 francs par mois. C'est-à-dire qu'un type, un voyou, un sauvageon, un jeune de l'Essonne, qui est envoyé au centre de Grand Bouches-du-Rhône, centre éducatif renforcé, travaille dans la journée pour se réinsérer dans un restaurant. Et ça coûte à la collectivité nationale 60 000 balles par jeune. Alors, et ça dure pendant 3 mois. Autrement dit, chaque jeune coûte 180 000 francs. Alors, je ne sais pas combien ils sont dans ce restaurant. Probablement quelques dizaines. Voilà ce qu'on fait du fric qu'on paye. Enfin, c'est complètement dingue. 60 000 francs par mois pour essayer d'apprendre à un jeune qui ne va rien avoir de plus pressé en rentrant que de recommencer à voler des voitures et à dealer du crack, lui apprendre à servir à table dans un restaurant. Naturellement, je suppose que... Enfin bref. Alors je vous donne l'adresse du restaurant, parce que si vous voulez quand même récupérer un peu de fric, vous pouvez toujours aller bouffer, et vous faites basket. Ce qui s'appelle faire basket, c'est au moment de l'addition, vous vous levez et vous filez à toute vitesse. Alors c'est le restaurant d'application Le Chaudron. En plus, c'est tentant, hein. On a vraiment envie d'aller bouffer là-bas. Le Chaudron, Grand Bouches-du-Rhône. Donc, hein, ça doit être quand même intéressant comme spectacle. Et dites-vous bien, chaque fois qu'un jeune viendra vous apporter une assiette de crudité, que c'est l'assiette de crudité la plus chère de toute la restauration mondiale. Parce que même dans les plus grandes boîtes, les plus grands restaurants parisiens, même chez Lasserre, même chez... Enfin, où vous voulez, je suis certain que ça coûte pas aussi cher. Et si le jeune sert... Je reviens, s'il sert 2 clients par jour, ou enfin 1 client à chaque service, ou 2 clients à chaque service, mettons 4 clients par jour, chaque client coûte en service pratiquement 100 €. Hein, ce qui fait environ 700 francs. Donc déjà, rien que le moment où vous posez vos fesses sur le siège du restaurant, pof, ça coûte 700 francs à la collectivité. Donc si vous payez le repas là-bas au Chaudron, c'est probablement 50 francs. Hein, oui,
et recommandation, quand le jeune vous apporte votre salade, faites attention à votre oseille.
Ah, c'est pas mal, ça. Hein. Ouais. autre histoire. On découvre que la police écoutait des conversations de journalistes. Ça, on peut vraiment pas dire que ça soit très nouveau. Mais c'était dans le cadre des affaires Corse. Et alors, la Division nationale de lutte antiterroriste, DNAT, a placé sur écoute un journaliste de l'Est républicain, Laïd Samari. Puis le 6 février 1998. Le 19 avril, 2 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, M. Samari, donc le journaliste, appelle le porte-parole du RPR, Patrick Devedjian, sur son portable, pour lui confier qu'il va peut-être publier une interview de Colonna entre les 2 tours du scrutin. C'est génial, s'enthousiasme le maire d'Antony, qui pendant l'hiver avait reçu de son parti la mission de ferrailler contre le projet de loi de Lionel Jospin sur la Corse. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que d'abord, il y a un journaliste de l'Est républicain qui va faire une interview de M. Colonna, qui est recherché par toutes les polices de France, soi-disant. Donc, c'est-à-dire que, premièrement, ce que la police n'est pas capable de faire, c'est-à-dire d'arrêter Colonna, un journaliste, de l'Est républicain, qui est quand même pas réputé comme étant la super flèche en matière d'investigation journalistique, c'est pas le Washington Post, arrive à le faire. Première chose. Deuxième chose, quand il arrive à ça, quel est son premier souci? C'est de téléphoner à un homme politique, qui s'appelle Patrick Devedjian, qui n'a rien à foutre de la Corse, ni de près ni de loin, pour lui dire qu'il va interviewer M. Colonna. Pourquoi un journaliste de l'Est républicain, pays dans lequel ne vit pas Devedjian, a-t-il le souci de téléphoner à M. Devedjian pour lui dire qu'il va réaliser une interview d'un terroriste en fuite? Pourquoi? Et troisièmement, M. Devedjian, homme d'État, homme politique, député français, quand il apprend ça, au lieu de dire à le journaliste, mes chers messieurs, pourquoi me dites-vous ça? En quoi cela me regarde-t-il? Et de quel droit voulez-vous me rendre témoin de ce qui constitue une espèce de... Enfin, au moins une indélicatesse à l'égard du système. Au lieu de lui dire ça, il lui dit, c'est génial. Et après ça, ce monsieur Devedjian, il se retrouve secrétaire d'État, ministre délégué chargé des libertés publiques. Et dans quel monde on vit? Alors, moi, je comprends pas. Dans le meilleur des mondes. Je lis plus loin l'article, et alors, on interroge Devedjian, il dit, « Oh ben, je m'imaginais pas être écouté. Non mais vraiment, il nous prend pour des pélicans, celui-là. Patrick, tu déconnes vraiment, hein. N'imaginez pas être écouté, je l'imagine encore moins ayant une conversation avec un journaliste. » C'est-à-dire que, lui, il suppose, d'abord, on l'écoute pas, mais en plus, comme personne ne l'écoute, les flics, dès que c'est un journaliste qui l'appelle, se dépêchent d'arrêter de l'écouter.
Donc si j'ai bien compris, celui qui a raconté ça, il ment des mensonges qui ne sont même pas vrais.
Ils sont même pas vrais. Et alors, attendez, non mais il dit ça. Et alors, un peu plus loin, on dit qu'il lui a dit au journaliste, tu me raconteras ça, mais pas au téléphone, parce qu'il paraît qu'on est sur écoute, toi et moi. C'est-à-dire qu'il ne se doutait pas qu'il était écouté, mais il dit quand même à l'autre, on est écouté. Ah bon, lâche laconiquement le journaliste. Je plaisante, répond l'avocat. Devedjian, tu me feras toujours bien rigoler. Mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est que tu me raconteras ça au téléphone. Pourquoi l'avocat porte-parole du RPR, tu sois-t-il un journaliste de l'Est républicain qui l'informe de son intention d'aller interviewer un terroriste corse recherché par toutes les polices?
Ouais, parce que il est d'une grande famille, on s'appelle tous compagnons et... Le tutoiement est ici on s'appelle citoyen, on se tutoie, s'il vous plaît.
Moi, je trouve cette histoire bizarre. Je vous le dis, il y aurait un peu de franc-maçonnerie là-dessous, ça ne m'étonnerait quand même qu'à moitié. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Méry? Vous qui êtes un spécialiste de la question.
Oui.
Ça pue pas un peu quand même le tablier de cochon?
En tout cas, ça sent un petit peu le réseau, enfin, voilà. Les copains, quoi.
Voilà. C'est Mais je voudrais quand même comprendre pourquoi un journaliste... Moi, j'ai été journaliste pendant quand même 35 ans. Je n'ai pas le souvenir d'avoir téléphoné à des hommes politiques pour leur dire « je vais interviewer un terroriste en fuite ». Et je me souviens que quand mon camarade Jacques Tillier est allé interviewer Messrine, qui a tenté de l'assassiner, l'a laissé pour mort d'ailleurs, j'étais à l'époque son rédacteur en chef, et il s'est bien gardé de me dire quoi que ce soit, à moi qui étais pourtant son rédacteur en chef. Et il ne l'a même pas dit au directeur du journal, qui était Jean Boiseau. Il est allé faire son interview, on ne savait absolument pas où il était, et parce que c'était la condition même de la réussite de l'opération. Disant qu'on était sur écoute et que ça aurait été connu. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un journaliste qui appelle un homme politique important, repéré, qui est chargé en plus de dossier corse, pour lui dire qu'il va interviewer un terroriste en fuite, moi je ne comprends pas. Je trouve que ça mériterait quand même qu'on approfondisse cette histoire parce que ça ne me plaît pas pour tout dire. Quoi. Voilà. Maître Méry, je vous ai demandé ce que vous pensiez de cette affaire de franc-maçon parce que vous êtes quand même un spécialiste. Vous avez écrit Justice, franc-maçonnerie, corruption, ce qui est quand même un bouquin un petit peu bombe, hein, faut bien dire. Et puis un autre ouvrage plus récent qui s'appelle Les Nouveaux Parrains, et dans lequel, pour le cas où on ne saurait pas de quoi il s'agit, on voit un fauteuil sur lequel est posée une robe de magistrat avec l'hermine, la blanche hermine, et un masque de théâtre. Alors, vous êtes inscrit au bureau de Paris, au barreau de Paris, oui, et au bureau pas encore. Et vous écrivez ces bouquins-là, c'est uniquement pour vous faire des amis ou...
Non, à vrai dire, je me suis fait beaucoup d'ennemis. Hein. Je crois que vous l'aurez compris, et même la situation est carrément effroyable. Car, comme vous disiez tout à l'heure sur OAL, et vous disiez qu'on les, on radie ceux qui écrivent, eh bien, je crois que maintenant, les radiations sont en marche, et que je suis encore avocat, je le serai peut-être encore dans combien de temps, je n'en sais rien. Ce qui est intéressant dans ce message, comme vous l'avez d'ailleurs remarqué, c'était en effet très nouveau, en 98, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas, et surtout, c'est la relation qu'il pouvait y avoir entre la justice, d'une part, la corruption, de l'autre, et le lien qu'était la franc-maçonnerie. Alors, évidemment, on a tout de suite essayé de faire les amalgames, anti-franc-maçon ou franc-maçon, c'est d'abord haïr tous les francs-maçons, ce qui est inexact. Nous ne dénonçons qu'une chose, c'est ce mélange de contre-nature qu'il y a, de mélanger justement le fait qu'on pourrait appartenir à une secte ou à un réseau pour essayer de travailler ensemble entre amis. Vous disiez tout à l'heure le tu de David Jean, et bien peut-être que là aussi il y a toujours le tu entre certains avocats, certains magistrats, et puis il y a les autres, la foule. Et j'avais comme idée de maintenant que je comprends et que je suis un peu acculé, il faut le reconnaître, eh bien j'avais l'idée d'être dans un grand camp, surveillé par justement ces gens, et ce réseau, oui.
Quand vous dites que vous êtes acculé, c'est-à-dire que vous êtes menacé de radiation de...
Ah mais absolument, mais attendez, c'est même pas menacé, c'est on annonce que je vais être radié, déjà, j'ai pas encore été entendu, mais on annonce, et on annonce même qu'on va immédiatement me suspendre, parce que vous avez un article 23, on a l'article 23 parmi les avocats, c'est-à-dire, on ne vous demande pas votre avis, on vous suspend. Et alors, il y a une belle motivation, parce que sans vous juger, vous voyez, on prend déjà une décision qui est catastrophique, puisque vous ne pouvez plus défendre, vous ne pouvez plus défendre vos clients, et on donne comme motivation qu'on va ainsi protéger vos clients de la folie de l'avocat, par exemple. Cette folie qui est de pouvoir oser parler de la franc-maçonnerie. Je voudrais que vous sachiez qu'en 1911, un avocat a déjà été radié, c'était le premier qui avait parlé de la franc-maçonnerie, il a été radié dans l'heure, si je puis dire. Bon, maintenant, nous sommes en 2002, et vous voyez que rien n'a changé. Et c'est dramatique, parce que même dans les affaires actuelles que vous voyez sur Messier, on sent cette petite... Ce grand réseau où on se passe le relais, où par exemple,
un ami me faisait remarquer pas plus tard qu'à midi que les ennuis de Messier, les ennuis médiatiques de Messier semblent avoir commencé à la suite d'une interview qu'il a donnée, je ne sais plus dans quel journal, ou à la télé, je ne sais plus exactement, où il disait, mais moi je suis catholique et j'ai une vie de famille et je vis d'une façon catholique, etc. Et là, immédiatement, ces ennuis ont commencé. Alors, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais...
Je ne pense pas qu'il y ait une relation, parce que vous sachez que la GNLF, par exemple, on est catholique, en principe. Donc on peut être à la fois franc-maçon et catholique.
Oui,
la GNLF, je ne parle pas du Grand Orient.
Oui, c'est certain, mais c'est peut-être pas la GNLF qui tient le haut du pavé.
Voilà. Bon, on va pas revenir là-dessus, parce que c'est important. Mais pour en rester à mon sujet, eh bien, je n'ai aucun ami, il faut reconnaître, même pire. Je me suis présenté aux élections ordinales, justement, là, ils se dépêchent parce qu'ils ont peur que je me représente. Et à chaque fois, j'avais quand même derrière moi à peu près 500 noms. 500 personnes sur 2000 votants, vous voyez, ça faisait quand même pas mal de monde. Et c'est cet effroi. Mais parmi ces 500 votants, personne ne vient vous le dire, c'est dans l'ombre. On est dans quelque chose de complètement effroyable. Mais je tenais à vous le dire, je vous remercie d'ailleurs de m'avoir reçu aujourd'hui, parce que c'est effroyable.
C'est quand même assez étonnant, parce que qu'il y ait des magistrats ou des avocats francs-maçons, on le sait depuis longtemps, c'est pas forcément, ça ne devrait pas forcément engendrer une espèce de solidarité de clan ou de tribu ou de secte comme ça, qui provoque l'exclusion immédiate, sans appel, de celui qui ose dire, attendez, vous exagérez quand même un petit peu, parce qu'on a
regardez
vu récemment...
un peu, tout le monde rentre dans l'ordre. Éric de Montgolfier, on n'entend plus parler de lui.
J'allais parler de lui.
Il est justement dans l'ordre, c'est fini. Et il n'ose même pas me parler. Lorsqu'on se voit, il est obligé de se cacher. Je vais vous dire, c'est vraiment effroyable ce qui se passe. Voilà, nous sommes dans une tyrannie totale. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de dénoncer. Pourquoi? Parce que nous avons justement mis le doigt dessus, ces gens-là se sont partagés le gâteau, que ça soit le gâteau de la justice, que ça soit le gâteau actuellement des grandes entreprises, où je te donne 18 millions de dollars, pourquoi pas, mais attention, tu ne me poursuis pas, parce que ton tour viendra un autre jour. Et vous voyez les mêmes gens, les bébéards, vous voyez les mêmes personnes, toujours, qui se partagent un gâteau. Et si vous dénoncez cela, si vous demandez à une bonne justice de s'appliquer, eh bien, vous enlevez les avantages. C'est-à-dire, on ne peut plus se partager le gâteau.
Mais il y a la justice, il y a les affaires, il y a la médecine. Puisque je discutais il n'y a pas très très longtemps avec quelqu'un qui a mis au point une méthode médicale tout à fait particulière, qui fait l'objet d'attaques incroyablement violentes de la part de la médecine institutionnelle, etc. Et naturellement de la mafia des laboratoires pharmaceutiques. Attaque soutenue par des hommes politiques, par des personnalités politiques, et lui, il faisait des stages des cures, dans lesquelles ces gens-là, les gens qui l'attaquent, allaient pour se faire soigner. C'est-à-dire qu'il y a ce groupe qui était soigné par lui et qui ne voulait pas que le grand public, que la France d'en bas, comme dit l'autre, puisse profiter des avantages dont eux profitaient.
Mais regardez, dans leur méthode, il y a deux façons. Il faut d'abord s'asseoir. Ils essayent d'abord la méthode douce. La méthode douce, c'est quoi? C'est par exemple construire une fausse procédure pénale contre un avocat, moi-même par exemple, et le juge va être chargé simplement de nommer immédiatement des experts psychiatriques pour immédiatement dire que l'avocat ne peut plus exercer puisqu'il est fou. D'abord, on essaye la folie. Vous imaginez, ça vous rappelle des souvenirs, la Tchécoslovaquie, autrefois, le problème stalinien. Et vous avez des avocats, des experts judiciaires, donc des experts qui écrivent d'ailleurs des lettres aux magistrats en disant « Merci de m'avoir donné ce dossier, j'avais quelques problèmes, merci bien ». Et alors, le cas en ce qui me concerne, il est quand même assez drôle. Regardez, vous avez un expert judiciaire très connu, qui rend un constat de carence, c'est-à-dire qu'il constate qu'il ne m'a pas vu, mais qui déduit du fait qu'il ne m'a pas vu, que je suis un paranoïaque au dernier degré, et que puisque je n'ai pas voulu le voir, j'étais inapte à la profession d'avocat. C'est la première chose. Je demande alors des avocats, de dire, mais attendez, vous savez ce qu'on est en train de faire contre moi, là? On est en train de me faire passer pour un fou, alors que je n'ai même pas été voir. Alors aussitôt un avocat, mais dépêché par l'ordre des avocats, qui va voir le juge d'instruction, très connu d'ailleurs, je ne donne pas son nom, bon, parce que on va encore avoir des procès, c'est l'homme au procès, hein, et qui a l'habitude de tuer par le procès. Eh bien, on demande, tenez-vous bien, une contre-expertise, alors autrement dit, une contre-expertise d'un constat de carence. C'est poilant, je veux dire, on rigole, mais c'est sérieux.
Enfin, il faut quand même avoir la santé pour en rigoler.
C'est sérieux. Et voyant donc, alors je ne vais pas voir le second, qui rend cette fois-ci un rapport d'expertise, indiquant, il a osé me dire qu'il n'acceptait pas de venir me voir, donc c'est que vraiment le constat de premier était vérifié. Mais évidemment, de tout ça, on rigole, mais je dis, c'est très dangereux. Que reste-t-il de nos avocats? 17 000 avocats à Paris, et personne ne bronche. L'ordre des avocats est tenu par 4 bâtonniers anciens, depuis 20 ans. Ces bâtonniers-là meurent au service commandé, ne font plus, ne plaident plus, ne font plus rien, bien entendu, sauf de condamner et de maintenir la terreur. Alors nous sommes dans cette terreur, mais bon, on ne va pas poursuivre, là, je ne veux pas pleurer.
Non, si vous voulez, c'est intéressant de savoir, en tout cas, si vous êtes radié et suspendu, il n'y aura pas de mystère sur l'origine du coup.
Ah ouais, écoutez, c'est très simple. Alors, vous me posez juste la question de savoir, mais sur quel fondement? Ben, c'est très
coup
simple.
De poignard cadeau, je
crois. Vous avez, par exemple, je suis poursuivi par un avocat honoraire qui prend toutes mes affaires où je défends les clients avec succès, mais comme j'attaque des magistrats, c'est catastrophique, puisqu'il y a du succès derrière. C'est que je vais donc j'arrive à démontrer que des magistrats ont fait des graves fautes. Eh bien, vous, il faut donc protéger ces pauvres clients qui sont en train de gagner et être sauvés. Ouais. Et c'est pour cela qu'on veut me radier, pour protéger les clients qui n'en peuvent mais de dire « Mais non, défendez-nous, puisque nous gagnons ». Voilà, pour vous dire, voyez, c'est l'absurdité totale, mais c'est le Kafka, c'est l'aveu. Voilà.
Mais alors, je vais vous poser une question, vous n'êtes pas du tout obligé d'y répondre, parce que c'est un peu particulier, mais moi, ça m'intéresse quand même d'avoir... Je sais que vous êtes l'avocat de l'abbé Salron.
Oui.
Avec maître Jouanneau.
C'est ça, oui.
Et cette affaire, elle a beaucoup, beaucoup secoué les milieux de la tradition, parce que l'accusation qui a été portée contre l'abbé Salaron, c'est une accusation terrible. On terrible. A dit qu'à la faveur d'exorcisme, il s'était livré à des choses pas bien sur certaines de ses consultantes, je sais pas comment on peut dire. Et vous êtes son avocat. Et alors, il semble que... moi, au début, j'ai pensé que c'était une affaire de simple folie, tout simplement. Enfin, c'était un pauvre prêtre qui avait craqué. Mmh. Et vous avez l'air de dire que c'est pas du tout le cas. Est-ce que vous pouvez en parler? Parce que mais c'est oui. encore à l'instruction.
Non, mais on peut en parler au moins par les péripéties qui arrivent autour, qui sont quand même extraordinaires, troublantes. D'abord, nous croyons, d'abord parce que nous ne défendons pas ce que nous croyons à l'innocence de cet homme. Cet homme-là n'a jamais eu aucune intention de violer qui que ce soit. Et c'est un coup
vous,
monté.
Vous, comme votre confrère.
Ah oui, mais nous sommes tous les deux, j'allais dire, comme deux frères sur ce sujet-là.
Et peut-être pas le mot qu'il faut employer.
Excusez-moi. Mais de confrères, en tout cas. Et c'est vrai qu'au début, on est toujours un peu choqué parce qu'il avait été raconté. On racontait que ce prêtre faisait des exorcismes privés et avait des gestes déplacés uniquement avec les petites filles ou les jeunes filles. Mmh. Voilà. En fait, il faut regarder le dossier d'une autre façon. Vous avez le cas d'un prêtre qui a violé. Et ce prêtre-là a aussitôt été mis en liberté conditionnelle. Il n'y avait pas de problème, c'était un vrai viol. Donc, il ne présentait aucun danger. Or, en ce qui concerne le père Salaron, celui-ci n'a jamais violé quiconque. Il a, c'est vrai, dans des exorcismes, été obligé, c'est-à-dire de toucher l'ensemble du corps. Et lui, d'après sa réflexion interne, disait que le fait de spécialiser un endroit du corps par rapport à un autre était quelque chose qui était récent et justement par opposition, j'allais dire, à ce libéralisme qu'on a, cette le libertinage qui existe actuellement avec une profusion de sexe vu à la télé, lui, on lui reproche tout simplement d'avoir touché et raflé peut-être de façon, mais c'était simplement dans une suite logique de signes, de signes commençant par la tête, le corps, etc. D'accord. Et on a, à partir de là, on a essayé de trouver des victimes. Vous voyez le système est fait que d'abord il y a une dénonciation. Vous avez un jeune garçon qui écrit à Monseigneur Thomas de Versailles. Je n'ai aucune preuve, j'ai la lettre, hein. Je n'ai strictement aucune preuve, ce ne sont que des suppositions, mais je vais vous raconter. Et vous voyez quelqu'un qui, pendant trois pages, raconte. Et puis vous avez des...
C'est ce que les criminaux américains appellent « oui dire » et ils écartent immédiatement ça.
Oui,
ça
n'a aucune s'adresse à Monseigneur Thomas.
Voilà, alors, oui c'est en plus, vous suivez mon regard. Oui.
Je suis très bien.
Mais attendez, il y a un deuxième personnage. Le deuxième soldat s'appelle Trousselard. Vous voyez un très beau nom dans ce genre d'affaires. Et M. Trousselard s'intitule l'inquisiteur chasseur de sectes.
De sectes, oui.
Or, M. Trousselard est un homme qui a un problème physique, c'est-à-dire qu'il a eu un cancer de la gorge et n'arrive plus à parler. Et, j'allais dire, il est un peu consigné dans sa bonne ville de Soissons. Mais le problème curieux, et là peut-être que je vais rejoindre ce que vous avez dit tout à l'heure, d'abord il a les deux décorations habituelles dont on reconnaît un petit peu, c'est-à-dire le rouge et le bleu, c'est un signe très évident, c'est, vous verrez qu'il y a toujours du rouge, du jaune et du bleu et du rouge, qui est un signe visible, mais non officiel, car il ne s'adapte pas beaucoup d'autres gens. Et qui va-t-il voir? Il va voir le procureur adjoint de Versailles, qui s'appelle M. Ossaert. Et j'allais dire que la boucle est bouclée. Et vous avez une mise en scène, c'est-à-dire vous avez M. Trousselard, dont un de vos évêques, Mgr Vernet, je crois, à qui j'ai interrogé, dit M. Trousselard, a-t-il le droit, par contrat ou par ordre de l'Église, de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire chasser les sectes.
Et la réponse a été formelle. Il n'est uniquement chargé de la documentation dans le diocèse de Soissons. Or, vous remarquez, cet homme est un chasseur sur tout le territoire français. Français, et c'est lui qui a monté la totalité du dossier. Alors, vous voyez donc ce problème à ce niveau-là, et maintenant, comment ça va se passer? Je voudrais vous dire que le père Salleron a été libéré. Il a été libéré auprès de 10 mois quand même, 10 mois terribles dans une prison, et contre la volonté évidemment de M. Ossaert et de tous les autres, car nous sommes actuellement, toutes les personnes qui croient en cette personne sont pourchassées par 2 officiers de police judiciaire, mais là je voudrais que vous compreniez bien comment c'est dramatique. Ils sont pourchassés par 2 officiers de police judiciaire que nous avons attaqués en subornation de témoins, car vous avez ces gens qui martyrisent les petits-enfants de 12-13 ans, dont une des phrases, dont la phrase la plus marquante est la suivante. « Tu peux mentir, puisque tu es catholique, tu iras te confesser. » C'est écrit en toutes lettres. Voilà ce que disent des officiers de police judiciaire et vont jusqu'à menacer de sanctionner, de punir des enfants de 13 ans parce qu'ils ne veulent, ils ne disent pas ce que ces officiers de police ont mission de faire dire. Voilà plus de 40 ou de 50 témoins qui ont été interrogés. Aucun ne confirme. Ah. Les 3 témoins filles, ce sont des témoins qui sont amenés gratuitement par Trousselard devant le tribunal, alors que Trousselard, le prêtre, est derrière les locaux pendant qu'on interroge les personnes qu'il va amener. Vous voyez quel est ce montage? Nous avons poursuivi par subornation, et j'en finis là, si vous voulez, mais pour vous dire encore le mécanisme qui se passe. Monsieur Salleron demande à ce que ces officiers de police judiciaire qui ont menti, qui ont fait des pressions sur les témoins, soient poursuivis, et que se passe-t-il? Eh bien, le procureur, toujours au Saert, impose une consignation élevée, alors qu'on sait que monsieur Salleron n'a pas un sou, impose une telle dont on sait qu'il ne va pas pouvoir se défendre, un appel est interjeté, et que fait Ossaert? Il bloque l'appel, ce qu'aucun procureur de France n'a fait jusqu'à présent. Lorsqu'on revient, il dit « je n'ai pas fait poursuivre l'appel ». Voyez-vous, alors, on en est là de cette affaire, on est dans un non-droit total, et comme ils ont repoussé, et maintenant vous voyez, de nouveau les officiers de police ayant bénéficié de l'aide du procureur pour les dédouaner de cette poursuite, eh bien, relance la chasse à la sorcière.
Ce qu'on peut dire, c'est que la République est une grande famille. Entre frères et sœurs, on se tient les coudes.
Monsieur Salleron, quand même, a voulu, parce que là, c'est une petite anecdote, mais qui va intéresser beaucoup de gens. Vous savez qu'il se bat comme une bête. Et il a raison, parce que vous avez tellement de gens qui sont là. Moi, comme je disais, l'autre jour, je disais en montrant du doigt Trousselard, vous n'avez personne dans vos églises, alors que vous reprochez à M. Salleron de remplir nos églises. Et ça a marqué le tribunal qui a condamné quand même le journal Le Figaro en diffamation. C'est-à-dire que tout ce qui est dit pour lequel il est poursuivi a été jugé diffamatoire par un tribunal. Et, dernier point important, le père Salleron a, avec notaire bien entendu, fait comprendre que les juges d'instruction ont été, la fonction du juge d'instruction a été abrogée. Abrogé par la loi, vous savez, de la fameuse loi du 15 juin 2000
Excusez-moi.
Oui.
On va s'arrêter deux secondes, si vous voulez. Non, pas du tout, mais vous voulez me répéter ça? Les juges d'instruction, la fonction de juge d'instruction aujourd'hui en France n'existe pas?
Exactement, et justement, nous l'avons dit, nous le plaidons, c'est ressort de l'article 47, et n'importe qui peut se plonger dans la loi du 15 juin, parce que la présomption d'innocence 2000, il lira l'article 47 de cette loi qui dit en son article 1er, 1, l'alinéa 1 de l'article L611-1 du Code de l'organisation judiciaire a été abrogé. Abrogé. Or, quand vous allez à l'article 1 de l'alinéa 1 de l'article L611-1, c'est il est institué un juge d'instruction devant chaque tribunal. Cet alinéa a été abrogé.
Mais attendez, ça a été voté à l'Assemblée nationale, cette loi.
Bien entendu.
Mais ce sont des crétins ou quoi?
C'est une imbécilité, mais on avait le même cas, vous savez, auprès des tribunaux de commerce qui n'existent plus. Ils ont fait, dans le plus grand secret, une loi rétroactive. Là, ça va, Eva est damant
faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis convoqué par un juge d'instruction, je peux très bien lui répondre, mais monsieur, je vous renvoie à l'article 1, enfin au paragraphe 1 de l'article 1 de la loi 600, et donc allez vous faire cuire une paire d'œufs.
Vous pourriez, mais bien entendu, comme. Alors, nous avons été justement devant cette instruction et devant la Cour de cassation, je vous explique un petit peu très brièvement. La Cour de la Chambre d'instruction a dit. Oui, oui, non, mais il ne faut pas en faire un plat. C'est parce que ils ont simplement dit, les termes sont exacts, vous pourrez les lire, c'est dans l'optique de réorganiser la carte judiciaire en France. On verra ça plus tard, mais ce n'est pas actuel comme sujet.
Ah bon, la loi est votée,
voilà,
mais ce n'est pas actuel.
Voilà. Et deuxièmement, et la Cour de cassation, elle, a pris une tangente. La tangente est très très simple, c'est de dire, ah mais attendez, vous nous parlez de quelque chose, alors que vous voyez, c'est important, parce que ça peut annuler toute la procédure.
C'est incroyable.
Et la procédure de tout le monde depuis 2 ans.
Mais c'est renversé. Bien que
les avocats se taisent, parce qu'on leur dit, attention, hein, c'est interdit. D'ailleurs, si je suis poursuivi, c'est parce que nous l'avons défendu. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Parce que ça peut foutre une désorganisation totale du système judiciaire. Qu'a dit la Cour de cassation? Je vous le dis, c'est très simple. Oh mon Dieu, ce problème de juge n'est pas grave, on ne peut pas l'étudier tout de suite, parce que on vous verrait ça plus tard avec le fond, c'est-à-dire si un jour M. Salron doit passer aux assises, eh bien on le verra plus tard, parce que ni l'ordre public, ni l'intérêt de la justice n'est intéressé par ce problème d'existence du juge d'instruction.
Comme disait Rousseau, écartons les faits, car ils n'ont rien à voir avec la cause.
Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Mais voilà, voyez le danger qu'on peut
avoir. Non, mais c'est renversant ce que vous venez de nous raconter.
C'est très grave. C'était grave et je
c'est renversant parce que, pardon, mais c'est vrai que c'est grave sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, mais c'est renversant sur le plan politique parce que ça veut dire que des députés, des parlementaires, qu'on paye je ne sais pas combien par mois, enfin des sommes phénoménales, qui ont des avantages sociaux extraordinaires, des billets de train, des billets d'avion, des machins, des restaurants, des coiffeurs gratuits, des trucs, sans compter les pots de vin et tout ça, non seulement. Ils s'engraissent, mais ils ne foutent rien. Et le peu qu'ils font, c'est des conneries. C'est-à-dire, voilà des types qui ont voté une loi qui, normalement, bloque totalement le fonctionnement de la justice française. Et il n'y en a pas un seul qui s'en est aperçu.
Non, parce que, voyez, la nuance, c'est que la fonction est supprimée, mais pas les modalités de la fonction. Alors, ils se raccrochent aux modalités. En fait, on dit, il n'y a plus de juge d'instruction, mais
ça,
par
c'est
contre,
du pile-poule.
Les juges d'instruction fonctionnent comme cela.
Oui, mais c'est du pile-poule. Parce
mais
que
non, mais tout ça, c'est pas du...
Plus.
Mais on est complètement hors du droit. Et justement, tenez, le dernier exemple, si vous voulez, quel est l'autre combat que je mène? On nous raconte que les juges ne sont pas... On ne peut pas poursuivre un juge. Il peut faire la plus grosse... Il vous ruine, il vous sabre. Vous êtes quelqu'un qui est sur le pavé, vous ne pouvez rien contre un juge. Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous dit, vous avez un article, je le donne pour mémoire, pour ceux qui sont intéressés, c'est l'article L781, trait d'union 1. C'est-à-dire qu'on peut, à la rigueur, mettre en cause l'État et éventuellement, si on réussit, alors qu'on perd tout le temps, ou quasiment tout le temps, ou alors il faut vraiment que le juge vous ait volé votre femme et votre voiture et votre maison pour que, peut-être, on retienne sa responsabilité, vous ne pouvez jamais attaquer un juge et, en réalité, l'État ne se retourne jamais contre ça. Eh bien, j'aurai quand même un jour, et je défends cela qui est tout simple, vous avez l'article 13 et 14, de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais c'est une simplicité, j'allais dire, évangélique. Il suffit de la lire, cette convention. Et vous regardez, qu'est-ce qui est écrit? Et je tiens à préciser, c'est très clair. C'est toute personne, alors suivez peut-être mon regard, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale. Alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant, et c'est là le mot important, dans l'exercice de leur fonction officielle. Or, l'article L781 dit qu'on ne peut pas attaquer un juge dans l'exercice de ses fonctions officielles. Or, vous savez très bien que depuis que la Convention européenne des droits de l'homme est d'une force supérieure à la loi nationale, en vertu de l'article 55, bon, je dis comme ça pour les intéressés, donc, tout le monde applique l'article 600. Le juge doit être impartial ou équitable. Personne ne va contester la vérité. Et on refuse actuellement ces deux articles. L'article 13, qui dit qu'on peut attaquer tout le monde, même le président de la République. Hein? Bon, mais je n'ai rien dit. Hein? Et ben, il suffit simplement de lire, et ce n'est pas la Constitution française qui pourrait s'y opposer. et qu'en même temps, l'article 14 de cette même dit que si on refuse cela, c'est qu'on fait une discrimination. Or, toute discrimination est interdite et contraire à la représentation. Voilà ce que je défends. Et vous comprendrez pourquoi. Pourquoi ben, cette voie, il faut l'éteindre le plus vite possible.
Ah oui, ça,
parce que je défends que ça.
Je comprends mieux
ça. Et également, je veux absolument que les juges soient impartiales.
Moi, si j'étais au pouvoir, vous circuleriez pas longtemps, je vous
et
le dis. Hein.
Ben voilà. Et voilà la triste vie, j'allais dire,
je
de celui
ministre.
Qui a encore un peu de vocation d'être avocat. Un beau métier, mais dont on me mettra certainement à la porte. Parce qu'on aura... Mais je suis sûr que d'autres gens prendront le relais et qu'on arrivera à réussir à faire valoir le droit en France.
Merci en tout cas d'être venu nous expliquer ces choses ébouriffantes. D'ailleurs, moi je suis abasourdi.
Ce qui ne va pas améliorer votre cas.
Ce n'est pas le problème.
Mort pour mort, au moins qu'on fasse quelque chose.
Ça c'est dit, voilà, les choses sont dites. Alors, on va en profiter. Si vous n'avez plus vos honoraires d'avocat pour vous, vous pourrez peut-être vendre quelques livres à la porte des églises. Alors, Bernard Méry, avocat, justice, franc-maçonnerie, corruption... paru aux éditions Spot.
Voilà.
Spot. Touche pas à mon Spot.
Oui.
Il y a une adresse aux éditions
Spot. On peut donner un numéro de téléphone, si vous voulez. Parce que c'est le 01 42 25 03 03. Et là, on peut toujours faire des commandes de livres.
Vous piquez toujours mon stylo, faire ça. Voilà. Vous êtes embêtant, vous savez. Il me pique mon stylo. Je balance maintenant. Alors, vous voulez le répéter, s'il vous plaît ?
Oui, je disais 01 42 25 03 03.
03 03. C'est les éditions Spot qui ont édité... Justice, franc-maçonnerie et corruption. Et l'autre livre, oui, Bernard Méry, Les nouveaux parrains.
Qui est devenu Liberté d'expression, la liberté
édition,
d'expression.
Liberté d'expression.
Qui est la suite de Spot, qu'on a, qu'on a trouvé très drôle, parce que vous savez que l'article 10 dit également qu'il y a une liberté d'expression. Je ne sais pas si vous...
Oui, ça c'est la partie la plus drôle.
Mais c'est pas encore... On n'applique pas les 10, on est arrivé qu'au 6 et on bloque sur le 6.
Oui. Merci beaucoup, Maître Méry. Je pense que vous reviendrez nous voir, parce que...
Ça sera du temps de libre bientôt.
Non, n'allons pas le...
Je me bats, mais c'est trop fort.
Je serais content de vous recevoir de nouveau pour savoir ce qu'il est advenu de votre cas. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Je crains que, après la tension de... que fait régner le Maître Méry... un nouveau sujet lourd risque de poser des problèmes à nos auditeurs qui me disent déjà Bekech nous casse le moral. Voilà, Bekech nous fout le cafard, que vont devenir les honnêtes gens. Mais monsieur, vous savez, ça c'est toujours la même vieille histoire. C'est un auditeur qui téléphone pour dire ça. Hein, c'est en France, on brûle ceux qui sonnent le tocsin et pas ceux qui foutent le feu. On pense qui sonne le tocsin et pas ceux qui foutent le feu. Moi, je sonne même pas le tocsin, je fournis le clocher à ces gens qui viennent sonner le tocsin. Alors, vous n'allez pas m'engueuler, c'est pas de ma faute si l'ensemble de la société française à l'heure actuelle est atteinte de pourrissement rapide et de gangrène gazeuse. C'est comme ça, il faut le savoir. Et au contraire, vous devriez avoir le moral regonflé, puisqu'il y a des gens comme Bernard Méry, des gens comme Vincent Renoir, qui résistent à cette... déliquescence extraordinaire, à ce terrorisme incroyable, et qui tiennent bon. Donc, voilà, haut les cœurs, réjouissons-nous. J'ai un jour, nous dit un auditeur, parlé avec un musulman. Je lui ai demandé pourquoi les musulmans n'occupaient pas les mosquées ou les synagogues. Réponse, on peut pas, ce sont des lieux de prière. Tandis que les églises, évidemment, comme dit cet auditeur, c'est des auberges espagnoles. Il faut absolument lire où Jusqu'où va-t-on descendre ? Abécédaire de la bêtise ambiante d'Alain Soral aux éditions Blanches. Ah oui. Alors, j'aurais voulu inviter Alain Soral, mais je crains que ce garçon soit marxiste. Je me suis laissé dire ça. Et donc, je crains qu'il n'accepte pas de venir parler à mon micro, pour des raisons qui... Je le crains simplement, hein. Mais son bouquin, Jusqu'où va-t-on descendre, Abécédaire de la bêtise ambiante, est un très 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 grand bouquin, vraiment très décapant. Je le recommande également. Autre message. Ben non, c'est tout, parce qu'après c'est un truc personnel qui n'a... Ah si, oui, il y a ça quand même. Au risque de déplaire à Beckett, alors ça c'est pas... ça me déplaît pas, ça c'est... C'est le moment comique de l'émission. Au risque de déplaire à Beckett, il existe quelqu'un qui dénonce toutes les magouilles. C'est Miguet. Dans le fameux journal de Miguet qui dénonce toutes les magouilles, bien entendu.
Ne disons pas de mal de l'homme qui a inventé le seul quotidien qui paraisse chaque mois.
Absolument, le seul quotidien paraissant une fois par mois.
Et qui a réalisé un très beau score aux législatives dans la circonscription d'Evre-Sud.
Oui.
Puisqu'il a quand même réalisé le score fulgurant de 0,54%.
Moins que vous ?
Moins que moi. Il faut le faire quand même.
Ah, c'est pas mal ça.
Bon, moi, je n'ai pas eu ma figure en 4x3 sur toutes les murs de France.
L'erreur de Miguel, c'est de s'être présenté dans un coin où on le connaît. Evre-Sud, tout le monde le connaît. Donc, il se serait présenté ailleurs, il aurait peut-être fait 0,56. Voilà, docteur Willem. Alors, on change complètement de sujet. Et vous allez essayer de se remonter le moral avec des huiles essentielles. Donc, vous êtes, je l'ai dit, vous êtes un médecin explorateur. Vous êtes parti à la recherche Vous avez voulu, si je comprends bien, étudier la façon dont les différents peuples du monde affrontent les questions de l'hygiène, de la santé, de la nourriture, de l'équilibre psychique, etc., etc. Et vous en avez, vous êtes animateur d'une association qui s'appelle
Les médecins aux pieds nus. Oui, et on recrute des gens qui sont pas forcément médecins, mais même des auditeurs qui ont le niveau bac, et on les forme en week-end dans un couvent pour apprendre les plantes. Et sur place, on fait des jardins médicinaux avec les essences dedans, c'est-à-dire les plantes médicinales, et on leur apprend pendant 4 jours à faire des médicaments, des teintures. Ça peut être du sirop, des gélules, etc.
Mais pourquoi il faut le bac pour faire ça?
Ben pour connaître quand même la cellule et puis pour mettre. Non, mais j'ai des gens qui ont le baccalauréat qui peuvent venir. Mais enfin, c'est pour montrer quand même qu'il faut un certain niveau. Ah, mais il y a des gens intelligents qui rattrapent vite les étapes.
Hein. Oui. Parce que donc c'est ouvert à 80% des Français.
C'est ouvert, mais enfin, il faut quand même être équilibré. Je ne prends pas quand même les délirants et tous ceux qui vont.
Les grands délirants.
Qui vont sauver le monde. Mais il y en a beaucoup dans l'humanité.
Votre bouquin ne ressemble pas du tout à un livre de délirants qui veut sauver le monde. Au contraire, c'est même. C'est un peu austère par certains aspects. C'est-à-dire, c'est un bouquin technique. Hein.
Oui, technique, non, mais enfin, il y a des sciences humaines quand même. Par exemple, de pourquoi moi j'ai été embarqué dans les huiles essentielles. J'ai eu un problème. C'est un peu le primum movens de ma vocation. Bon, j'ai 40 ans à travers le monde, je suis même dans le livre des records, parce que je suis chirurgien de guerre, j'ai fait 14 guerres, donc dans le livre des records, je suis même dans le WHO. Et on m'a dit, mais comment un gars comme toi, qui fait de la chirurgie, quand même c'est de la médecine qui est dure, pourquoi tu t'es plongé dans les sciences humaines, c'est-à-dire aller récolter toute l'intelligence cellulaire de toutes les cultures. Il y a un sens dans toutes les cultures. S'il n'y avait pas de sens, s'il n'y avait pas des signifiés, etc., ça se casserait la figure. Hein. Ça serait comme une colonne qui ne porterait plus rien. Et c'est pour ça que moi, je me suis plongé là-dedans. Et j'ai eu un cas, donc j'ai parlé de chirurgie de guerre, je n'ai jamais été militaire. Hein. J'ai fait mon temps à la coopération au Rwanda, dans les Grands Lacs. C'était le lendemain du premier génocide des Tutsis. Et il y avait sur place une pathologie qu'on appelait l'ulcère phagédénique, ou l'ulcère torpide. C'est-à-dire une petite bestiole, je ne vous donne pas le nom, ça ne sert à rien, qui creuse les chairs au niveau des membres inférieurs et qui attaque l'os. C'est très douloureux, à telle enseigne que certains se suicident. Les antibiotiques ne marchent pas. Alors, moi, mon temps, faire mon service militaire pour scier les jambes, puis en plus, je n'ai pas de médecin anesthésiste, donc on fait une rachianesthésie. Donc, les malades suivent leur opération, c'est quelque chose d'atroce. Et puis, j'ai eu une inspiration, parce qu'il y a toujours des inspirations, on est un peu technicien d'improvisation. Je me suis souvenu de l'embaumement. L'embaumement, c'est quoi? Ça remonte à 4000 ans, c'est-à-dire les momies qui sont conservées. Vous savez qu'un corps se putréfie, se décompose, vous avez tout le jeu des bestiaux, etc., qui arrivent, et eux, ils arrivent à conserver les chairs. Alors, je me suis plongé un peu là-dedans, j'ai lu le roman de la momie de Théophile Gautier, j'ai étudié Hérodite, etc., qui en parlait, et voilà comment, je ne vais pas expliquer, donc on éviscérait l'abdomen ainsi que le crâne et on y mettait des huiles essentielles dedans. On y mettait donc un peu des aromates et puis de la cannelle en huile essentielle, de la myrrhe, etc. et du sel. Bon, Eh bien, ça compte. Ah, je suis interne des hôpitaux, je suis un peu scientifique, hein, je vais jusqu'au bout, parce que si, quand vous êtes en médecine naturelle, il y a tout un monde surnaturel, moi, qui me déplaît un peu, parce que je suis quand même un peu scientifique, donc
je vais jusqu'au bout. Ce que je trouve curieux, c'est de lire le roman de la momie,
oui,
qui est un roman, comme son nom.
Qui est un roman, mais enfin, il donne quand même des explications, et puis bon, il a dû l'étudier de son côté, et puis ça se pérennise, puis si vous allez à Louxor, vous voyez... sur les, comment vous appelez, en bas des murs, là, les bas-côtés, vous avez des schémas, justement, où on voit des alambics, etc., hein, c'est expliqué, on peut même retrouver, les égyptologues peuvent désigner, donc, les huiles essentielles, le basilic, etc., peuvent
le retrouver. Et ça, c'est votre premier contact avec les huiles essentielles.
Mais ça remonte à 65, c'est pas hier. Hein,
mais à partir de là, vous avez...
Et à partir de là, je me suis lancé là-dedans. Entre autres, hein, j'ai étudié les plantes des guérisseurs, je suis un peu président d'honneur de tous les ordres des guérisseurs d'Afrique, hein, parce qu'en Afrique, dans tous les pays, il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des tradipraticiens. On ne dit plus sorciers ni guérisseurs, on dit des tradipraticiens. Je vais à leur congrès. Hein, et on procède par des échanges parce qu'eux, ils connaissent bien les plantes.
En Afrique, en Amérique du Sud aussi.
En Amérique du Sud, on est au Guatemala, on est au Pérou, on est au Vietnam, on est un peu partout, on est sur tous les continents. Notre association est la troisième en France. Mais vous n'en entendez pas parler parce qu'on ne fait pas vivre les labos.
Oui, ben ça, c'est évident. Alors,
on parle un peu de fraîcheur avec nos odeurs, mais c'est pareil. Le combat de l'avocat, nous, il est encore plus terrible. Hein. J'étais à Évreux, au devant d'une consoeur qui était stoppée, radiée, à vie. Elle pèse 35 kilos actuellement, parce qu'en général, vous savez, les doctoresses, c'est quand même des gens qui sont... ils ont eu de l'émotion et tout, c'est pas des énarques. Hein, alors, elle s'effondre, alors on va là... lui remonter le moral, mais partout à travers la France, c'est-à-dire il y en a qui sont radiés.
En France, c'est un pays curieux dans la mesure où on condamne des médecins pour exercice illégal de la médecine.
Oui, c'est ça. Alors que normalement,
toujours très intéressant comme
les plantes font partie de la pharmacopée. Mmh. Mais dès lors que vous vous occupez des pathologies un peu plus graves, vous savez, quand vous avez des gens qui ont le sida et qui ne veulent plus prendre la trithérapie ou un cancer, etc., donc... pour leur apporter un confort en plus et vous occuper, ça c'est chasse gardée. Là, vous ne pouvez pas y toucher. Tous ceux qui y touchent, ils sont raillés. Je ne parle pas de ceux qui sont contre les vaccinations, etc. C'est un autre propos. Hein. Mais ils sont, moi je ne fais que
d'aller... Oui, genre comme Scoï...
Oui, ben, vous connaissez bien Scoï, il y a Langto, etc. Ouais. Donc on les fait passer pour des psychotiques, quoi. Et puis c'est fini.
C'est marrant, c'est exactement ce que nous racontait Maître Bernard Méry tout à l'heure.
Oui,
c'est-à-dire qu'on est dans un pays stalinien.
Mais bien sûr.
Quand quelqu'un est en dissidence, on décrète que c'est un malade mental. Alors, que ce soit un médecin ou un avocat.
Là, je vais faire une rectification historique. Ce n'est pas dans un régime stalinien, c'est dans un régime khrouchtchevien. Parce que dans le régime stalinien, on ne dit pas qu'il est fou, c'est directement la balle dans la tête.
Oui, c'est vrai. C'est un bon traitement, d'ailleurs, contre la folie. On ne connaît pas beaucoup de gens qui ont fait des crises de démence après avoir pris une balle dans la tête.
Hein, ça me rappelle un univers de science-fiction. Donc, c'était une dictateur absolue. Et donc, à un moment, il dit « Nous avons un détecteur de traîtres parfaitement au point. Tous les traîtres qui l'ont testé sont morts.
» Oui, c'est bien. Alors, donc, à partir de cette démarche... d'intuition, en fait. C'est curieux parce que votre démarche, elle fait penser à la démarche de certains grands savants qui ont découvert des choses extraordinaires simplement à partir d'une intuition. Je pense à Niels Bohr, par exemple, ou des gens comme ça, qui ont rêvé quelque chose, qui ont
eu l'idée. Plongé dans les grandes cultures. Ouais. C'est très difficile, hein, parce que, bon, avant de partir, mes gens, donc, ils suivent une formation qu'on appelle d'ethnomédecine, c'est-à-dire on étudie les médecines d'ailleurs et les plantes parallèlement, en week-end, donc une fois par mois. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que nous, on a notre petite culture occidentale, qui n'y a plus rien. Hein, le gréco-romain, il n'y a presque plus rien. Mais eux, ils conservent, comme par exemple la médecine ayurvédique, il y a un milliard de gens qui l'appliquent. Vous avez la médecine chinoise et tout, qui ont leurs racines profondes, etc., et qui correspondent à quelque chose. Par exemple, j'ai découvert, il y a des peuples qui n'ont pas de cancer, par exemple, chez les Hunza. Les Hausa, vous avez aussi Abilcabamba, plus maintenant. Maintenant qu'ils sont occidentalisés, c'était fini. Et pourquoi? Je vais vous expliquer. Ben, tout simplement, c'est que ces gens-là, ils vivent à 2500 mètres d'altitude et il n'y a plus, rien à manger. Donc, ils gèrent leur nourriture, font plus qu'un repas. Ils mettent leur terrain en acidocétose. C'est-à-dire qu'ils attaquent leurs protides, leurs lipides, et ils sont en acidocétose. Et moyennant quoi, il y a un qui a le prix Nobel en 1923, Otto Warburg, a dit « Le cancer ne se développe pas quand votre terrain est acide. » Et je vous donne un cas précis, il n'y a pas de cancer du muscle. Pourquoi? Ben parce que le muscle a plein d'acide lactique. Regardez Armstrong, qui va gagner son troisième tour de France. Vous savez qu'il a eu un cancer des testicules. Pourquoi, j'allais dire, je souhaite que Dieu l'accompagne, qu'il soit complètement tari, son cancer. Mais, moi, à mon avis, j'ai une idée, c'est qu'en faisant 5 heures de sport, il est inondé d'acide lactique. Il ne peut pas se développer, son cancer. Et le jour où il va arrêter, il risque d'y avoir une flambée. Vous voyez, il y a des explications. Et c'est pour cela que les trois religions, on étudie aussi les religions, elles ont un sens. Quand on vous dit de jeûner, vous savez qu'il y a le ramadan, il y a le carême, et chez les juifs, il y a le Yom Kippour, mais enfin, c'est étalé dans... Ils ont cassé un peu le système. Eh bien, ça correspond à quelque chose, c'est que le jeûne vous permet de mettre votre terrain d'abord, le jeûne permet de purifier, parce qu'on est trop pléthorique. C'est pas vous qui allez me démentir, on mange un peu trop. Et vous savez que les maigres vivent plus longtemps.
Oui, mais qu'est-ce qu'ils s'emmerdent?
Mais voilà. Mais ça, c'est une autre émission. Et alors, donc vous voyez, il y a un sens dans la religion. Mais moi, si j'évoque la religion, on va dire, tiens, il est dans une secte. Alors, je suis anthropologue, on m'emmerde pas. J'ai étudié ça, et j'étudie tout, et j'enfonce le clou. De même, vous avez il y a une tribu, une ethnie, par exemple, en Afrique du Sud, qui n'ont pas d'allergie. Ça serait trop long à vous expliquer, mais vraiment long, mais vraiment simple à expliquer. Et alors, il suffit, moi, je fais des sciences humaines, et je marie ça à la biologie. C'est-à-dire que, par exemple, pour le cancer, il y a le bioélectromètre de Vincent, donc, qui a découvert les trois paramètres de l'eau, et qui vous dit, si votre terrain est acide, vous n'aurez ni cancer, ni infarctus, ni virus, parce que les virus ne prolifèrent pas en acidose. Je vous donne encore un exemple qui va vous plaire. Par exemple, le sida, vous ne pouvez pas le trouver au niveau du vagin. Pourquoi? Le vagin, il a un pH à 5,6. Il est uniquement au niveau du rectum, qui fait 8,5. C'est alcalin, c'est une boîte de pétri. Alors, quand j'ai fait mes articles, on m'a dit, mais oh là là, j'ai eu tous les homosexuels sur le dos.
Strength for bottom.
Façon de parler. Et de fait, la biologie était là pour corroborer en disant, tant qu'on est, on ne sera pas tous. Le jour.
Alors, comment on rend son milieu acide, si j'ose dire?
Eh bien, par une réduction alimentaire. Il faut, au printemps, c'est là où
En buvant du vinaigre, ça ne suffit pas?
Non, parce que ce serait trop simple. Il faudrait.
Que le vinaigre des quatre voleurs dont vous parlez dans
exact.
Dans le bouquin.
Vous l'avez lu. Très bien. L'exemple est bon du XVIIe siècle que j'ai appliqué du reste. Pour l'épidémie de choléra au Guatemala. Vous savez que l'épidémie est partie du Pérou. Eh bien, notre mission, donc les médecins pieds nus, on l'attendait. Eh bien, il n'y a rien eu. Sur l'altiplano, on a tout le monde s'est inondé de vinaigre sur le corps, comme faisaient donc les voyous du XVIIe siècle, et qui n'ont pas subi donc l'épidémie. Et on le réapplique, ça c'est des trucs de bonne femme.
Je parlais de ça ce matin d'ailleurs avec un ami, on parlait du vinaigre des quatre voleurs, enfin plus exactement des épidémies de peste. Et il me disait, on constate qu'il y a deux catégories d'individus qui étaient épargnés par la peste, c'était les médecins, enfin les docteurs à l'époque, je ne sais pas, les médicastres, je ne sais pas comment il faut appeler ça, et les voleurs. Alors je lui parle immédiatement du vinaigre des quatre voleurs. Je lui dis, on les a torturés pour connaître la recette et ils ne l'ont jamais donné. Il me dit tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas la donner, étant donné que, en réalité, c'est pas tant le vinaigre des quatre voleurs qui les protégeait de la peste, c'était leur mental.
Neuro-immunologie. Du reste, il y a trois prix Nobel, dont Druisberg, qui disent, par exemple, le sida, il n'y a rien dedans, c'est une chute des défenses immunitaires. C'est-à-dire, le mental, dès qu'il est atteint, tout s'effondre. C'est-à-dire, vous ne sécrétez plus d'opium, c'est-à-dire qu'on appelle les endorphines. Quand on est heureux...
Et de la morphine...
C'est une hormone opiacée, vous voulez, donc qui est naturelle, qui n'est pas comme du cannabis, etc. Donc, vous avez une euphorie. et qui et on est loin des catécholamines, etc. Donc tout s'explique. Quelqu'un qui est en bonne santé, par exemple un chef d'entreprise, qui n'est pas un salopard, etc., il y aura quand même des stress de la vie administrative, les trucs, mais en principe, il est beaucoup plus résistant que ceux qui sont à portée. C'est ce qu'on appelle en homéopathie les staphys agria, c'est-à-dire ceux qui ont de l'aigreur, ceux qui sont frustrés, etc.
Les
méchants, ils sont laminés. C'est-à-dire, soyez chrétiens, là. Et alors, ils sont donc, eux-mêmes se meurent de l'intérieur, ils n'ont plus de force. Et cette force vitale, c'est ça qui va relancer les défenses immunitaires. Votre raisonnement était bon.
Excellent. Alors, pour en revenir quand même à votre livre, parce que tout ça ne nous conduit pas forcément vers les huiles essentielles.
Ah oui.
Alors, à quel moment les huiles essentielles interviennent-elles dans cette démarche thérapeutique ?
Il faut expliquer comment on les obtient. C'est un petit peu, dans les campagnes, il y a les alambics. Vous avez dû, je ne sais pas si vous êtes de la campagne, c'était à telle saison, vous connaissez le résultat.
J'en ai été un pendant longtemps.
Et alors, vous voyez ces cuves qui fument, etc. Donc, on y met des prunes. Bon, mais là, on y met à la place des plantes médicinales et on fait par un chauffage et de l'eau une vaporisation qui vient embarquer les molécules aromatiques des plantes et qui sont recueillies donc dans un vase et voilà donc on obtient donc les huiles essentielles. C'est la lavande dans le midi, le thym, la sarriette, l'origan, etc., toutes ces plantes. Et il y en a d'autres, parce que quand vous parlez des huiles essentielles, on fait le tour du monde. Il y en a au Vietnam qu'on va chercher, il y en a 5 en Corse. Vous avez l'hélichryse qu'on appelle l'immortel, et pour cause, l'hélichryse d'abord c'est une plante, maintenant tous les chirurgiens, depuis j'en ai parlé dans une radio, tous les chirurgiens apprennent quand vous avez des cicatrices, vous mettez de l'hélichryse, ça stoppe immédiatement, donc il n'y a jamais de bleu et jamais d'hématome. Oui. Mais il y a une autre indication que je ne vous parlerai pas. On l'appelle l'immortel. Elle est chère, et là c'est cher. Hein. Et on en trouve.
Vous ne voulez pas en parler parce que vous avez peur que je vive éternellement.
Non, c'est parce que ça traite des pathologies graves, avec efficacité. Mais il n'y a pas que Willem, il y a beaucoup de médecins qui l'emploient en catimini, on travaille dans les catacombes. Et à travers le monde, dans le monde anglo-saxon, tout le monde fonce là-dedans. Hein. Ça soigne les hépatites. Hein. Vous avez une, elle est épuisée. Depuis que j'en ai parlé, elle est épuisée, c'est le tintuchanol. Hein, et il y en a une autre, donc le laidon du Groenland qui est beaucoup plus cher. Mais ce qui est intéressant quand même avec les huiles essentielles, parce que vous dites que c'est triste, je vais vous dire, la nature elle est bien faite. Les huiles essentielles, elles poussent là où il y a des pathologies. Regardez, si vous avez été au Canada, pays humide, pays froid, il y a des rhumatismes. On trouve deux huiles essentielles magnifiques qui sont la Golteri couchée. Je vous le dis pas en latin, parce qu'on parle tout en latin. Golteria de Cubans, hein. On parle tout.
Oui,
c'est
ce que
ça veut dire. Eh oui, mais il y a une tribu, mais Serge, il n'y en a qu'un, il est en face de nous. Donc, il faut bien préciser l'espèce et le genre. Et vous en avez une autre qui s'appelle le bouleau jaune. Elle contient 99% de méthyl de salicylate. Vous savez ce que c'est? C'est de l'aspirine.
Oui, c'est de l'aspirine, absolument.
C'est de l'aspirine.
C'est l'écorce de bouleau qui contient.
Bon, et chez nous, en Occident, pareil, vous avez la reine des prés. Qui pousse dans les terrains humides, là où il y a du rhumatisme. Elle vous indique, elle vous fait, il y a la loi des signatures, elle vous fait un clin d'œil. Hein, et vous avez donc le saule qui pousse le long des... Et tout est comme ça. Et alors, par contre, ou en revanche, en Inde, où là, il y a beaucoup de pathologies infectieuses, classiques, alors là, vous avez les basiliques, vous avez les bergamotes, etc., qui poussent en abondance. Ça, c'est un peu de philosophie. Mais alors, tout ça pour vous dire que les huiles essentielles, elles soignent tous les aspects de la pathologie de l'homme, que ce soit en gynéco, les candidoses, le psoriasis, l'herpès. Vous mettez par exemple du laurier noble, Laurus nobilis, avec un coton-tige sur votre herpès, vous mettez, c'est fini en 2-3 jours. C'est miraculeux. Du reste, c'est le docteur Valnet qui a lancé cela, c'était mon maître, on a fait le même parcours, il avait fait le Vietnam comme chirurgien, moi je l'ai fait avec les Américains, lui il l'a fait avec les Français. Et c'est lui qui l'a bien lancé, le docteur Nature. Mais il y a des recettes, il y a
alors,
un ensemble de recettes.
Alors justement, je regrette parce que là on arrive en bout d'émission, enfin de première partie, j'aurais voulu qu'on puisse pas parler plus longtemps, mais vous viendrez nous voir.
Oui, mais est-ce que vous me permettrez de donner l'adresse de mon association?
Oui, absolument.
Parce que comme je suis pas verni de l'autre côté...
Voilà, non, mais ça on va le faire. Mais je voudrais simplement dire que votre livre... c'est un livre qui est présenté de la façon suivante. Au début, vous présentez un peu qui vous êtes, ce que vous avez fait, etc., très brièvement. Et ensuite, c'est un guide, hein, c'est un manuel, c'est-à-dire que vous expliquez les propriétés de chaque produit, de chaque huile essentielle, ses domaines d'application, les modes d'application.
Oui.
Et donc, on peut utiliser votre livre directement.
Ah oui.
Par exemple, j'ouvre au hasard l'amande poivrée. Il y a l'histoire de l'amande poivrée. Un jour, Hadès, Pluton tombe amoureux de la nymphe Minta, etc. Ensuite, il y a la description botanique. Ensuite, il y a les observations, les applications thérapeutiques, le résumé des propriétés thérapeutiques, le résumé des maladies soignées. Puis c'est la même chose pour la myrrhe, c'est la même chose pour le lavandin, pour le thym vulgaire, pour... tous les produits sont traités de cette façon-là.
J'ai fait une description.
C'est un manuel.
Oui.
C'est pas un livre de souvenirs ni de philosophie de la médecine. C'est un véritable manuel sur les huiles.
La maladie, c'est quelque chose de sérieux. Hein. Et c'est aux éditions donc Dauphin.
Aux éditions du Dauphin qu'on aime bien parce qu'ils font vraiment des bons bouquins dans ce domaine.
Alors, et mon association,
votre association, les médecins alors, pieds nus.
Oui, on habite au 9 rue du Général Beurré, mais avec un T à la fin,
oui.
Dans le 15e. Et le téléphone, c'est le 01 42 50 10 58. Puis je vois que vous avez un bon regard, un deuxième, 01 42 50 04 58. Et je vous attends dès lors que vous voulez partir en mission, c'est-à-dire c'est une école de la vie, et vous revenez vraiment requinqué, puis ça fait pas de mal par les temps qui courent. Surtout qu'il y a beaucoup de chômeurs.
Merci, docteur William, de toutes ces informations et bonnes informations. Et puis, vous reviendrez nous voir, on a plein de choses à apprendre de vous.
D'accord.
Merci beaucoup. Vincent Renouard, alors vous êtes un genre de personnage aussi un peu particulier, parce que vous êtes une espèce de diable.
Hein, vous avez oui, je n'ai pas de corne, mais...
Non, mais vous avez été... C'est une chose sur laquelle je ne peux pas répondre. Vous avez été, comment dirais-je, persécuté d'une façon extraordinaire parce que vous faites de l'histoire et de l'histoire non conformiste et non conventionnelle. Et vous aviez publié un livre qui était consacré à l'affaire d'Oradour, au drame, la tragédie d'Oradour-sur-Glane. Livre qui a été interdit. Et qui vient d'être, non pas réautorisé, mais dont l'interdiction vient d'être levée par la Cour d'appel de Paris, qui a constaté que les motifs pour lesquels ce livre était interdit étaient inacceptables. Donc le livre est de nouveau disponible.
Le livre est de nouveau disponible, oui.
Mais alors, entre-temps, la publication de ce livre, et puis les recherches sur Oradour, avaient suscité... Contre votre livre, il faut bien le dire, un autre ouvrage qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Fouché.
Oui.
Et alors, on n'en sort plus, parce qu'à la suite de la publication du livre de Jean-Jacques Fouché, il y a quelqu'un qui a fait une enquête, qui a pris le livre de monsieur Fouché, qui l'a étudié, et qui a publié les conclusions de cette enquête sur le livre de Fouché par rapport à ses constatations sur le drame d'Oradour-sur-Glane.
En plus, exactement, il a lu le livre de Fouché, il l'a comparé au nôtre.
Voilà. Et, transformé en éditeur, vous avez décidé de publier les travaux de ce monsieur, qui signe, pour des raisons qu'il regarde, Yves C. Et je tiens à dire, parce que la question a été posée, que ça n'est pas Yves Chiron.
Non, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir, donc il vaut mieux le mettre à l'aise tout de suite. Et alors ce livre s'intitule « Justice pour Oradour ». Alors, moi c'est un sujet dont j'ignorais absolument tout. Sinon que, ayant été dans une école militaire depuis ma petite enfance, j'ai été élevé dans le culte de la résistance, dans le devoir de mémoire, et comme on était à Grenoble, on allait visiter la grotte de la Luire, on allait à Tulle, on allait dans tous les endroits où il y avait eu des tragédies de la guerre, et à chaque fois on nous disait, voilà, ici il y avait des résistants qui se sont battus, et là les Allemands les ont écrasés, les ont tués, les ont massacrés, les ont... fusillés, etc., et rendons hommage à ces héros qui ont affronté la mort et tout. Et si bien que dans ma tête, Oradour, c'était un endroit où, au lieu de la résistance, des gens avaient été massacrés parce qu'ils avaient résisté à l'occupant allemand. Et puis, quand j'ai lu le livre de Renoir, et puis les autres bouquins sur cette question, j'ai eu à peu près confirmation de ça. Or, ce que j'ai découvert... C'est un mystère, alors là, totalement insondable, c'est que La vérité officielle, obligatoire, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'à Oradour, il n'y a jamais eu de résistants. Il ne faut surtout pas dire qu'il y a eu des résistants. Et si on dit, comme vous l'avez fait, qu'il y a eu des résistants, eh ben, on se fait interdire de publication. Il faut dire qu'Oradour, c'est un village d'innocents. C'est quand même extraordinaire, d'ailleurs, d'appeler innocents des gens dont l'innocence est de ne pas avoir résisté. Innocent de quoi, bon. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi veut-on absolument que les gens d'Oradour aient été exécutés sans avoir jamais rien fait pour montrer qu'ils étaient hostiles à l'occupation? C'est quand même un grand mystère. Et même, quand on lit le bouquin de Fouché, on découvre, je vais donner cette phrase tout de suite parce qu'elle va vous montrer à quel point la chose est paradoxale et curieuse. Il écrit les critiques locaux qui ont lu le livre de Fouché disent que il a voulu lutter contre l'idée de l'innocence des martyrs d'Oradour en insinuant sans preuve que l'antisémitisme n'avait pas été absent au sein de la population du village jusqu'en 44. Autrement dit, ce que nous explique M. Fouché, en somme, ce qu'on doit comprendre du livre de M. Fouché, c'est que les habitants d'Oradour n'étaient pas innocents, raison pour laquelle ils ont été assassinés par les Allemands, et quel était leur crime? Ils étaient antisémites. C'est bien ce que je comprends, je crois que tout le monde comprend ça. Autrement dit, les Allemands auraient assassiné les habitants d'un village, parce qu'ils les accusaient d'être antisémites.
C'est pas exactement ça. Jean-Jacques Fouché, en fait, dit les Allemands ont assassiné des gens pour des raisons qui restent obscures et en tous les cas sans raison valable, mais il dit attention tout de même, il ne faut pas présenter Oradour comme un village, je dirais comme un village si neutre que cela, parce qu'à Oradour, il y avait quand même un sentiment antisémite qui existait dans la population. Et sa phrase, je crois qu'il dit à la fin d'un chapitre, je crois que c'est à la fin du chapitre 4, je crois, ou du chapitre 3, c'est l'extraordinaire qui blesse à Oradour, sous-entendu le 10 juin 44, peut-il, en gros, effacer ce qui précédait, sous-entendu le fait qu'avant, la population était parcourue, ou au moins une partie de la population était parcourue par un courant antisémite.
Alors, il faut savoir que ce monsieur Fouché, il a été président du mémorial d'Oradour.
Pas exactement, il a été président du projet du mémorial qui a ouvert ses portes le 16 juillet 1999.
Mais on est vraiment dans une histoire de fou furieux, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui vient, qui dit voilà, ce village, en somme, bon, on ne dira pas qu'il ne l'a pas volé, mais enfin, il faut quand même pas oublier que dans cette tragédie, avant, il était antisémite. Et c'est à lui qu'on confie le projet de dresser un mémorial pour célébrer la mémoire de ces gens qui ont été massacrés. Donc déjà, au départ, moi, je dois dire, je suis pas très intelligent, mais là, je n'y comprends plus rien. Puis alors, il y a le deuxième niveau d'incompréhension, qui est, pourquoi a-t-on voulu absolument nous dire que les morts d'Oradour avaient été brûlés dans l'église, alors qu'il suffit de regarder les photographies des lieux et des cadavres qui sont publiés d'ailleurs dans ce petit bouquin pour voir qu'ils n'ont pas été brûlés du tout et qu'il n'y a pas eu d'incendie.
Oui, alors justement, je tiens à dire que c'est la méthode que nous avons utilisée depuis le début. C'est-à-dire que je ne suis pas historien de formation et je ne cherche nullement d'ailleurs à me prétendre historien. J'ai mené mon enquête sur Oradour comme n'importe quel, je dirais, enquêteur policier enquêtré sur un crime. Alors que aujourd'hui, les gens qui écrivent des livres sur Oradour, comme Pascal Maisonnave, qui a écrit un livre qui s'appelle Oradour, plus près de la vérité, qui est paru en 1996, ou, comme vous l'avez dit, Jean-Jacques Fouché, qui a écrit Oradour, tout simplement, qui est paru aux éditions Liana Lévy en 2001, ces gens-là commencent par nous expliquer le contexte général. Alors, ils vont vous parler, par exemple, du nazisme, de la guerre totale, et puis ensuite, ils vont venir au contexte un peu plus particulier. Ils vont parler, par exemple, de l'occupation en France, ou alors des méthodes de la Waffen-SS. Et puis ensuite, ils vont se rapprocher encore. Ils vont vous parler de de l'occupation dans le Massif central, dans le Limousin. Et ce n'est que très tard qu'ils vont s'intéresser au massacre proprement dit. Et là, on voit qu'ils vont... Il ne nous apporte pas grand-chose, finalement. On reprend la thèse officielle. Bref, les Allemands arrivent, et pour des raisons assez obscures, mais probablement pour intimider la résistance et terroriser les populations, ils massacrent un village entier.
Voilà. C'est ça. Moi, ce que je vois, si vous voulez, en tant que béotien complet, c'est que toute la vulgate, tout le discours officiel consiste à dire il s'agissait d'un village qui n'avait aucun contact avec la résistance, et on n'a pas brûlé, on n'a pas détruit la population d'Oradour parce que c'était un village de résistants, on l'a détruit par pure sauvagerie pour faire un exemple, pour terroriser, etc. Or, quand on lit les travaux même de Fouché, qui défend cette thèse, on s'aperçoit que cette thèse, elle tient pas, mais pour des raisons qui sont des raisons évidente. Il y a un exemple, par exemple, un exemple qui est cité par Yves C. dans Justice pour Oradour. Le titre est excellent, d'ailleurs, parce que ça rend justice à ce village que de dire c'est un village de combattants, c'est un village de résistance, c'est pas un village de gens qui se sont laissés massacrer sans broncher. Il y a un exemple, alors, qui est tout à fait frappant, c'est que Fouché écrit, il cite donc un... Il cite la dactylographie d'un procès-verbal d'audition d'un ancien Waffen-SS, Auguste Lohner, en date du 22 novembre 1945, qui était présent à Oradour-sur-Glâne le jour du drame, le 10 juin 1944. Déposition faite lors du procès de Bordeaux de 1953. Et alors, il le cite de la façon suivante. Il dit « J'avais moi-même... » Je rappelle que c'est Fouché qui cite Lohner, et il dit... Il lui fait dire « J'avais moi-même été commandé de me poster face à l'église en contrebas sur la route pour veiller à ce que personne ne s'échappe, cela au moment où des femmes avaient tenté de s'échapper par les vitraux. Je n'ai plus vu personne qui aurait tenté de s'enfuir, mais j'ai relevé au mur sous le vitrail, etc. » Je répète, au moment où des femmes avaient tenté de s'échapper par les vitraux. Donc, on imagine la scène telle qu'elle est racontée par Fouché. Les femmes sont enfermées avec les enfants dans l'église et quelques femmes essaye de s'enfuir en passant par les vitraux. Or, quand on lit l'original de la dactylographie...
Non, je vous arrête tout de suite, c'est pas l'original, justement.
Enfin, la copie.
Quand on lit une copie qui a été faite pour la défense, par des dactylos professionnels.
Oui, c'est ça. Donc, quand on lit une copie qui a été faite pour la défense au moment du procès, on lit au moment où les hommes avaient tenté de s'échapper par les vitraux.
Oui, il y a une différence énorme entre une pièce originale que cite Jean-Jacques Fouché, et la pièce que nous avons découverte dans les archives de la Défense. Et on ne peut pas croire qu'une dactylo qui copie une pièce change des femmes en les hommes.
Surtout que ce sont des copies certifiées, si elles sont produites en justice.
Voilà, donc là il y a quelque chose en effet qui ne va pas.
Sinon, si on veut comprendre que, effectivement, si des hommes ont tenté de s'échapper, on peut supposer que c'était des résistants qui étaient enfermés dans l'église.
Qui étaient cachés dans l'église.
Qui étaient cachés dans l'église et qui ont tenté de s'enfuir. Alors que si c'est des femmes, non pas que les femmes étaient moins résistantes, mais l'image en tout cas qu'on peut avoir de la chose.
C'est différent.
Si c'est des femmes, c'est des femmes qui fuient, terrorisées. Si c'est des hommes, c'est des hommes qui fuient pour continuer le combat. Pour échapper à leur geôlier et continuer le combat.
Oui, pour une raison ou pour une autre, mais ouais. Les hommes ne devaient pas être à l'église. Alors, je voudrais juste continuer en disant que nous avons procédé d'une façon complètement différente de tous ces historiens qui nous parlent d'abord du contexte général. Nous avons commencé par le commencement, c'est-à-dire que nous avons inspecté les ruines et les cadavres. Alors, bien sûr, on va me dire 50 ans après, il n'y a plus grand-chose. Si, parce qu'on a une chance énorme à Oradour, d'abord, c'est que les ruines ont été conservées. Bon, elles ont été quand même sensiblement modifiées, mais c'est en gros ici. Et puis, on dispose aussi des photos de l'époque.
Oui, il y a des milliers de photos.
Il y a pas des milliers, non, mais il y en a plusieurs dizaines qui sont assez parlantes. Et nous, la première chose que l'on a faite, c'est on s'est justement extrait totalement du contexte. Oradour, ça aurait pu être un village au Vietnam, en Chine, en Papouasie, je ne sais pas. La tragédie aurait pu se passer en 1900, en 1800, en 1700. On se moquait de tout cela. Nous, on a commencé à dire, bon, on va regarder quel est l'état des ruines et quel est l'état des cadavres. Et c'est à partir de cela qu'on va commencer à émettre les premières hypothèses sur ce qu'il s'est passé. Et notre, je dirais, ce que nous avons fait par rapport aux autres, c'est que par ces analyses purement matérielles, bêtes et méchantes, on s'est aperçu que les... Il faut savoir qu'à Oradour, la population, les femmes et les enfants ont été séparés des hommes. Les hommes ont été mis par petits groupes dans des granges et les femmes et les enfants ont été enfermés dans l'église. Les hommes ont été fusillés dans des circonstances que l'on explique et qui ne sont pas, je pense, celles vraiment que l'on dit, mais enfin, et les femmes et les enfants ont été brûlés vifs et vivent dans l'église. Or, quand on regarde les photos des cadavres des hommes et des cadavres des femmes et des enfants, on est surpris par la différence qui existe. Les hommes, les cadavres sont entiers, seulement ils sont carbonisés. Il n'y a plus d'habits, plus de cheveux, ils sont méconnaissables, le nez a disparu, les lèvres ont disparu. Bref, ce sont des gens qui sont restés longtemps dans le feu. Ça correspond tout à fait avec la thèse officielle qui dit qu'ils ont été fusillés et ensuite que les Allemands les ont brûlés. Bon, bref. Or, les femmes et les enfants dans l'église, c'est complètement différent. On s'aperçoit que les corps ne sont pas entiers, mais sont tous déchiquetés. Et c'est là que nous avons eu nos premiers soupçons, en disant, attention, ces corps que l'on voit déchiquetés, c'est beaucoup plus, ça se rapporte beaucoup plus à une explosion qu'à, je dirais, des gens qui sont brûlés vifs. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à enquêter, et que, bon, en tirant la pelote au fur et à mesure, on s'est aperçu que, bon, l'histoire officielle était entièrement fausse.
Alors, vous, l'hypothèse que vous étayez, c'est que l'église aurait servi d'entrepôt d'explosifs.
Oui.
Et que c'est lors de l'attaque que les explosions se seraient produites et auraient entraîné la destruction de l'église, de l'entourage de l'église et des gens qui étaient dans l'église ou autour de l'église.
Voilà. C'est-à-dire que...
Alors que la version officielle, pardon, c'est de dire les Allemands ont enfermé tout le monde dans l'église et ils ont mis le feu pour tuer les gens.
C'est ça. Ils les ont d'abord mitraillés et ensuite ils ont mis le feu. Alors nous démontrons matériellement que ce n'est pas possible.
Si vous voulez, on n'a pas le temps d'entrer dans ce débat ici. Il faut que les auditeurs voient le bouquin pour... parce qu'il y a des photographies, il y a des plans, il y a des croquis. La question qui me trouble énormément, je le répète, c'est cette affaire, c'est ce refus catégorique, cet interdit qui est posé sur la présence d'un haut lieu de la résistance dans Oradour. Et d'ailleurs, l'auteur Yves Sédi, c'est justement parce que Oradour était, à l'écart des lignes de la résistance, qu'on peut imaginer que c'est là qu'on a entreposé des explosifs, parce que c'était un village qui était moins en première ligne de la résistance que les autres. Cela dit, la version officielle passe quand même sous silence des faits qui sont extraordinaires. Alors il y a l'histoire de cette jeune juive qui meurt à Oradour. Alors je vous laisse la raconter parce que c'est...
Oui, cette histoire nous avait échappé, nous. C'est Jean-Jacques Fouché qui l'a déterré, enfin pas la juive, c'est pas Carpentras, mais qui a déterré cette histoire. C'est qu'il y avait à Oradour une famille qui s'appelait les Jakubowicz, c'était des réfugiés juifs qui s'étaient réfugiés en France et qui avaient été logés pas loin d'Oradour, dans un petit hameau. Or, il faut savoir que la fille, Jakubowicz, a été placée chez un communiste notoire à Oradour. Et qu'elle est morte le 10 juin 1944 dans la tragédie. Or, elle n'est pas morte dans l'église, comme les femmes et les enfants. Elle est morte chez ce communiste où elle avait été cachée, entre guillemets. Et son corps a été découvert et identifié après. Et il n'a pas été enterré dans les fosses communes avec les autres. Il a été enterré, je crois, en septembre 1944, lors d'une grande manifestation FTP. Il y a eu présentation des armes devant le cercueil. Jean-Jacques Fouché leur donne une photo. On voit le cercueil avec un drapeau français dessus. Ouais. Et nous, à la suite de Yves C., nous en déduisons en effet que cette jeune juive faisait partie de la résistance. Et on ne voit pas pourquoi elle aurait un enterrement de ce genre.
Son frère était dans la résistance, engagé dans la résistance, compagnie FTP. Sarah, elle est mise en sécurité, entre guillemets, à Oradour, chez le cordonnier Machefer.
Qui était un communiste notoire surveillé par les RG. Voilà. Donc c'est pas là qu'on met quelqu'un en sécurité.
C'est curieux, si on veut cacher quelqu'un, de le mettre chez un communiste surveillé par les RG en pleine occupation. Et lui dit, il a pris la fuite après l'arrivée des SS, après avoir brûlé tous les papiers qui pouvaient lui nuire. Il dit, brûlant tous les papiers qui pourraient me nuire, je quittais mon domicile vers 14h10 et m'enfuis à la route de Saint-Junien. C'est-à-dire, donc c'était les papiers qui pouvaient lui nuire, c'était probablement des papiers qui avaient trait à des activités de résistance.
Sûrement.
Bon, et alors, On peut supposer que Sarah n'a pas été mise en sécurité chez lui, mais qu'elle était chez lui parce qu'elle faisait partie du même réseau.
Et sûrement qu'elle avait une mission.
Et qu'elle avait une mission.
Ce jour-là.
Ce qui tente à prouver qu'elle était en mission, c'est que, comme vous le disiez, l'Union de Résistance et d'Entraide des Juifs de France, une organisation d'obédience communiste, organise ses obsèques à laquelle assisteront 600 à 800 personnes, et au cours de laquelle un catafalque dressé, entouré d'une garde d'honneur de FTP en armes, et des gerbes furent déposées au nom des formations militaires qui rendirent les honneurs. C'est quand même pas des funérailles pour quelqu'un qui aurait été victime d'une...
Donc toutes les autres familles en France n'ont pas le droit à des funérailles comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Donc ça c'est clair. Ensuite, il y a l'histoire du parachute, enfin de l'aviateur australien qui s'appelait...
Len Cotton
et qui a été hébergé à Oradour. Et alors, chose curieuse, lui, il raconte, il dit, voilà, on s'est écrasé dans la région d'Oradour, puis on a survécu...
C'était en 1942, ça, fin 42,
oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça prouve qu'il y avait une activité résistante
oui.
à Oradour. Ils ont accueilli les 6 membres de l'hôpital, de l'équipage, qui avaient survécu, ils les ont pris en charge, ils ont été pris en charge par les résistants de Confolens, qui les ont ensuite menés à Oradour-sur-Glane, d'après Cotton, et Cotton dit, on a été présenté au prêtre du village, un homme petit avec des sourcils épais, qui nous a cachés dans la sacristie de l'église, et on est resté 3 jours, on a été nourri par la fille de Madame Roufange, qui joue un rôle d'ailleurs très important dans cette
affaire. Puisqu'elle est présentée comme l'unique rescapée de l'église.
Ouais, qui se faisait appeler Daniel, et que la fille de Madame Roufange appartenait à la résistance sous le pseudonyme de Daniel. Elle s'occupait plus particulièrement d'un réseau d'évasion, Comet Escape Line, et le prêtre d'Oradour, s'il n'appartenait pas lui-même à la résistance, participait au réseau. Tout ça, c'est ce que dit Cotten. Et curieusement, Cotten envoie une lettre circonstanciée pour témoigner, puisqu'il a été retrouvé en Australie.
Oui, c'est nous qui l'avons retrouvé, d'ailleurs.
C'est nous qui l'avons retrouvé. Et alors là, grand silence.
Voilà. Il a, donc, lorsque...
Fouché n'en cite pas.
Non, voilà. Lorsque j'ai retrouvé Len Cotton, c'était à la fin de mon enquête, et je pensais plus faire de découverte, et c'est, bon, une circonstance, peu importe qui me l'a fait retrouver. Et je lui ai tout de suite demandé d'écrire une lettre circonstanciée, et dans mon premier livre, je l'ai publiée. Donc j'ai publié la lettre et la traduction. Et je pensais que Jean-Jacques Fouché allait me répondre en essayant de dire que Len Cotton était un fabulateur et que je m'étais laissé tromper par un simple fabulateur. Or, dans son livre sur Oradour, il n'y a pas un mot sur Len Cotton. Il passe complètement l'affaire de cet aviateur récupéré par la résistance et amené à Oradour, en fin 42, début 43. Il passe complètement cette histoire sous silence. Il n'essaie même pas de nous réfuter, ce qui démontre bien qu'il il sait que c'est vrai, mais bon, son seul choix, c'est la fuite. Enfin, il n'a plus de choix.
Voilà, moi j'ai voulu vous recevoir pour parler de cette histoire parce que je crois que c'est la question. Il n'y a pas de question sur la réalité des faits. C'est indiscutable que les habitants d'Oradour ont péri dans des conditions atroces. C'est indiscutable qu'ils ont péri en présence d'une colonne de Waffen-SS. Et c'est indiscutable qu'il y a un lien entre la présence des Waffen-SS et la mort des gens d'Oradour. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est pas... Là, il ne s'agit pas de nier la réalité de ces faits. Il s'agit simplement de s'interroger sur les raisons qui font que on veut absolument étouffer. C'est quand même incroyable, c'est paradoxal. Depuis des années, moi j'ai 55 ans, j'ai commencé à m'éveiller à l'histoire de France, je devais avoir, 8 ans. J'ai entendu parler, donc depuis 47 ans, de la résistance française. La résistance, les Français, les résistants, à Grenoble, dans le Maquis, le Vercors, etc., etc., etc. Bon. Et d'un seul coup, là, on me dit, non, pas de résistance, rien du tout, il n'y a rien du tout,
alors,
etc.
Je peux justement apporter, je pense qu'il y a des dizaines de raisons, chacun a sa raison, mais moi j'en dégage une plus particulière. C'est que, quand vous avez parlé des endroits où on nous dit, il y a eu de la résistance, les résistants ont été massacrés, fusillés, torturés par les SS, par la Wehrmacht, par qui on veut, ce sont les résistants eux-mêmes qui ont été tués. Alors qu'à Oradour, ce sont des femmes et des enfants, qui a priori n'étaient pas impliqués dans les combats de la résistance, qui trouvent la mort dans une tragédie due à la présence de résistance dans le village. Là, on pointe du doigt donc un problème très particulier, c'est la résistance a-t-elle entraîné des drames humains qui auraient été évitables si elles n'avaient pas existé.
Bon, enfin, ça, on le sait, puisque notamment les prises d'otages qui ont été effectuées après certains attentats perpétrés par les FTP, par les communistes notamment, on sait très bien qu'il y a eu des centaines d'innocents qui ont été fusillés à la suite, à titre de représailles, à la suite d'attentats contre les officiers allemands, commis par des résistants.
Oui, donc, mais Oradour, là, est vraiment le symbole. C'est devenu un symbole. Et justement, c'est devenu un symbole de la barbarie nazie. Mais si Oradour devenait soudainement le symbole des drames qui peuvent se passer lorsque la résistance existe dans un pays occupé, vous vous rendez compte que là, ça va tout changer. Parce qu'à partir du moment où on va dire « Ah, il y a eu des morts à cause de la résistance », va se poser la question « Mais la résistance, était-elle nécessaire ou pas ?» Et donc va se poser la question « Était-elle légale ou pas du point de vue du droit international ?» Je vous signale qu'en France, on a rarement posé cette question. On élude tout à fait ces problèmes de la résistance et c'est-elle légale ou pas. Et je pense qu'Oradour, parmi toutes les raisons qu'on peut invoquer, c'est celle-là. Les résistants ne veulent absolument pas aujourd'hui que l'on puisse dire les femmes et les enfants sont morts parce que nous faisions et des actions dans la plus stricte illégalité et que ça a conduit à des drames humains terribles. Parce que les otages qui étaient pris dans les villes, vous en parlez, c'était souvent des hommes. Regardez à Tulle. Mmh. À Tulle, c'était des hommes et la plupart du temps, c'était des gens qui étaient en relation avec le maquis.
Conformément à la Convention de Genève.
Comment ?
Conformément à la Convention de Genève qui autorise pour chaque soldat tué par un franc-tireur, c'est-à-dire un homme sans uniforme, la Convention de Genève autorise en représailles de fusiller 10 hommes en état de porter des armes.
Oui. Alors là, on pourrait encore discuter parce qu'il y a les représailles collectives. Bon, enfin, on peut en discuter si vous voulez. Mais justement, tout ce problème est des otages, voilà, c'est que les Allemands prenaient en général des hommes en état de porter des armes et en général des hommes dont ils subodoraient les liens avec la résistance. Or, à Oradour, c'est complètement différent. Ce sont des femmes et des enfants qui, là, perdent la vie dans un drame. Et donc, cette fois, si on arrive, s'il se révèle que c'est à cause d'une présence résistante qui a fait une action, et j'en parle dans mon livre, puisque tout ça, je le dévoile dans mon livre, si c'est par la faute de la résistance qui a fait une action inconsidérée, ou une action qui ne changeait pas en elle-même le cours de la guerre, à ce moment-là se pose la question. La résistance, elle perd une partie de son aura. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a interdit mon premier livre jusqu'à ce qu'il soit autorisé, et pourquoi, je parlerai pas peut-être pas de persécution, mais je suis quand même poursuivi de leur hargne, puisqu'ils cherchent à interdire de tout ce que je publie.
Alors, écoutez, le meilleur moyen pour se rendre compte, c'est de lire ce livre, qui s'appelle donc Justice pour Oradour, qui est paru chez VHO, boîte postale 256, B1050 Bruxelles 5, B1050 Bruxelles 5, et il vaut 20 euros. C'est en Belgique, bien sûr. Alors, vous pouvez le commander, et c'est tout à fait intéressant, ça vous permettra de tirer au clair. Alors, c'est curieux parce que, enfin, c'est pas curieux, le sujet intéresse énormément les auditeurs, il y a beaucoup de questions, et des témoignages. Alors, je vais lire comme ça vient. « Ma famille habitait à 15 km d'Oradour. Je peux dire que un des aspects occultés de cette affaire est directement lié à l'interception à proximité d'Oradour par le maquis d'une voiture allemande transportant la paye de la division allemande qui se repliait. Cet argent n'a jamais été retrouvé. » Les grands dossiers de l'histoire contemporaine de Raymond Aron. Oradour-sur-Glane, sa population 1574 habitants, s'ajoutent deux familles israélites et un nombre important de réfugiés d'Alsace-Lorraine. Si ces familles vivaient là, où était l'antisémitisme ? Un auditeur, en 1944, on nous expliquait que le drame d'Oradour était une erreur des Allemands qui s'étaient trompés d'Oradour.
Cette thèse est officiellement abandonnée, ça.
Ouais. Mais ça reste, c'est des choses qui ont été dites et qui restent.
Qui restent, bien que ce soit...
Très bien, voilà. C'est Oradour-sur-Vert ou quelque chose comme ça.
Voilà, on dit qu'il y a une confusion avec Oradour-sur-Vert, mais même Jean-Jacques Fouché, qui Dieu sait s'il n'est pas d'accord avec nous, admet avec nous que cette thèse est abandonnée.
Je continue à lire les messages. Au sujet d'Oradour, il n'y avait plus de résistance. C'est la disparition du trésor de guerre de la division d'Astreich qui se trouvait à Saint-Junien, qui a provoqué ce massacre. J'habitais à 15 km d'Oradour, le maire s'appelait Dupic, il a échappé au massacre, c'était le grand-père de mon copain. Vous tapez le front d'un air de dire, mais c'est pas vrai, mais ce qui est intéressant, c'est justement de voir combien les choses qu'on apprenait quand on était enfant, moi j'ai appris ça aussi, sont restées dans notre tête, et comme des explications.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais la thèse de l'or volé au SS a été défendue par un Anglais, par McNess, qui a écrit Oradour, l'or des SS, qui est paru en français aussi. C'est une thèse dont je n'ai même pas parlé, tellement qu'elle est abracadabrante.
Oui, d'accord, mais c'est pas tellement le problème, si vous voulez. Ce qui me paraît intéressant pour moi, et ce qui me paraît intéressant comme sujet de réflexion, c'est le fait que 60 ans après les faits, puisque c'est pratiquement 60 ans après les faits, des explications qui nous ont été données au cours années, dans notre petite enfance, dans notre jeunesse, pour nous, elles sont devenues des explications, ben, c'est l'explication.
Ah oui, c'est sûr.
Alors,
je suis d'accord.
On s'est trompé d'oradour, ils ont volé le trésor de la division. J'ai toujours entendu dire, dans mon enfance, nous dit une auditrice, que le massacre était une mesure de représailles des Allemands parce que l'un des leurs avait été pendu à un crochet de boucher. Toujours, on pend toujours au crochet de boucher. On a l'impression que les crochets de boucher ne servent qu'à ça, d'ailleurs. J'ai vécu cette époque en Haute-Vienne et il a été dit que les Allemands avaient confondu Oradour-sur-Glane avec Oradour-sur-Vair, où il y avait eu des accrochages avec le maquis. J'ai un membre de ma famille, une jeune fille de 15 ans, qui a été brûlée dans l'église d'Oradour-sur-Glane. D'après ce que nous pensons, les Allemands se sont trompés. Ils devaient aller à Oradour-sur-Vair parce qu'un colonel allemand avait été tué à cet endroit par la résistance.
Oui, non, c'était pas Oradour-sur-Vair, justement. Voilà. L'histoire du colonel allemand, c'est, je l'explique en long, en large travers dans mon livre.
Alors, j'ai toujours entendu dire que la division SS avait été victime d'une attaque dans un autre Oradour et que les représailles étaient dues à une méprise. Trouve-t-on maintenant, à Paris, le livre Oradour, enfin, le livre de Vincent, sur Oradour de Vincent Renoir? Alors, on peut le commander à la...
Ah ben, on peut le commander directement à notre adresse. Hein.
Je précise que c'est un livre qui n'est plus interdit.
Voilà, c'est ça, tout le monde peut le commander.
Et il n'est pas interdit d'en parler.
Tout ce que les gens ont parlé d'ici, j'en parle, mis à part l'histoire de l'or qui est tellement grotesque. Bon, là, j'ai pas osé...
Alors, ne peut-on rapprocher... Alors ça, c'est, je le dirai après. André Figueras a écrit un livre sur Oradour qui est complètement différent et n'a jamais été ni démenti ni interdit. Mais il n'est pas différent du tout, puisque...
Moi, je l'ai démenti.
Il y aurait eu un stock de munitions caché dans le clocher qui a explosé par erreur.
Oui, enfin, ça, c'est... Mais par contre, Figueras s'est trompé sur beaucoup de choses dans son histoire d'Oradour. J'en parle un peu, d'ailleurs.
Et alors, une question très intéressante, moi, je trouve. Hein, ne peut-on pas rapprocher l'affaire d'Oradour du mensonge qui a déclenché l'attaque de l'OTAN contre la Serbie, la fameuse attaque à l'obus du marché de...
Sarajevo,
c'est ça.
C'est très possible, là, je suis pas...
Et pour finir, et je crois que ce sera la question, enfin plutôt l'intervention d'auditeur qui clôturera cette conversation, toute cette discussion sur Oradour me laisse perplexe. On peut difficilement dire mieux, non?
Ah ben oui, là je vois pas trop. Ce monsieur a qu'à lire mon livre, il verra ce que...
Voilà. Alors je répète, ça c'est pas votre livre, c'est le livre de Yves C, Justice pour Oradour, qui est paru aux éditions VHO, boîte postale 256, B1050 ou 1050 si vous préférez, Bruxelles 5, Royaume de Belgique. Le prix est de 20 euros. Service compris ou...
Non, si, c'est 23 euros franco. Ça.
23 euros franco. Franco. Même en Belgique, il est là. Il est partout. Merci Vincent Renoir.
Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
J'espère que vos ennuis, puisque maintenant justice vous a été rendue.
Ah ben non, là je suis maintenant, il m'accuse, je suis sous le coup d'une plainte et d'une instruction pour apologie crime de guerre.
Ah.
C'est toujours par rapport à Oradour.
Parce que vous avez félicité les...
Mais non, justement, alors d'abord ils ont voulu me poursuivre pour négation de crime de guerre, mais on a dû leur dire que la seule négation qui était condamnable en France, c'était la négation de crime contre l'humanité. Or, Oradour étant un crime de guerre, on ne pouvait pas me poursuivre pour cela. Alors, ils ont dit que finalement, cette négation équivalait à faire une apologie du crime. Donc, je suis poursuivi pour apologie du crime.
Alors, je précise qu'on n'a pas fait d'apologie. C'est très, très mal ce qu'ont fait les Allemands. C'est bien clair. Hein
pas, je ne... que tout ceci
je,
est laid.
Je n'approuve pas. C'est très mal. Voilà.
Eh bien, au revoir à tous et bonne fin de journée.
Merci, Vincent Renoir. Alors, mon petit Fersan, il vous reste 2 minutes. Pour nous dire où vous en êtes de votre prochain ouvrage.
Alors, le prochain ouvrage, j'ai un ouvrage que je viens de remettre au correcteur pour les corrections finales. Donc, l'ouvrage est terminé. C'était pas celui que je pensais finir en premier, mais bon, il s'est avéré que c'est celui-là qui va sortir en premier. C'est un livre qui va s'appeler Libre Parole, au pluriel. Je précise bien au pluriel, Libre Parole, qui est une chronique de tous les événements qui se sont passés, donc, de mai, pendant les mois de mai et le mois de juin. Un commentaire sur l'actualité, avec des portraits tendres pour certains, grinçants pour d'autres, de diverses personnalités. Alors, je cite quelques noms de personnes dont je dépeins d'une plume amicale ou féroce. Donc, je dis quelques noms, vous verrez qui aura le droit à la critique amicale, qui aura le droit à la critique féroce.
On sait d'avance, c'est pas drôle, alors. Alors,
des gens comme Pim Fortin, Julien Drey, Marine Le Pen, Malik Bouti, Pierre Sidos, Jacques Chirac, Bertrand Delanoë. Un petit commentaire.
Vous me regardez d'un air coquin en disant merci de le donner. Il est extraordinaire ce garçon.
Pas d'allusion,
comme mon vieux.
Donc c'est un commentaire. Alors chaque jour, je commente un point de l'actualité. Donc ça fait quand même le tout un joli ouvrage de 200 pages pour un prix tout ce qu'il y a de plus dérisoire, puisqu'il est à 28 euros, frais de port inclus.
Bien. Et en plus, vous allez lancer un quotidien.
Alors, je lance un quotidien. Si j'arrive à avoir sans abonnement, je lance un quotidien à partir du 31 août. Donc, l'abonnement est de 300 euros par an, ce qui est pas beaucoup pour un quotidien, qui paraîtra 6 jours par semaine.
S'il est imprimé sur la feuille d'or, non, c'est pas cher.
Ce qui paraîtra 6 jours par semaine. Donc toutes les semaines évidemment.
Oui, bah
c'est un 4 pages.
C'est le propre du quotidien.
Voilà, donc 300 euros par
alors,
an. L'adresse, publication Henri de Fersan, boîte postale 18 63 670 Le Sandre.
Alors attendez, il va toucher. Si jamais il a 100 abonnements, 100 abonnements à 300 euros, il va ramasser la caisse et on n'entendra plus jamais parler de lui. 30 000 euros quand même. Mmh. Hein, vous avez le temps de voir venir. Merci Henri.
C'est un abonnement sur papier ou sur Internet ?
Ah non, sur papier,
bien sûr. Papier. Voilà. Merci à tous. Je rappelle quand même, je vais faire une demi-seconde de pub, l'adresse du Libre Journal, si vous voulez vous abonner, si vous ne l'avez pas fait le jour de la fête du livre. J'en ai pas parlé, mais c'était formidable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on a bien dîné après, avec des amis qui étaient venus, c'était bien. Donc, l'adresse du Libre Journal, 4 Place France Litz, parce qu'on avait faim, hein. 4 Place France Litz, 75 010, Paris, vous pouvez vous abonner, donc pour 110 euros, vous réabonnez pour 100 euros, ou avoir un exemplaire du journal, moyennant l'envoi d'un carnet de timbre, ce qu'on appelait le carnet de timbre à 30 francs dans le temps, maintenant je pense que ça va.
À 4,60 euros.
Bon, bonne semaine, que Dieu nous garde.